Europe Matin Weekend.
Bonjour à vous. Mais qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver. Est-ce que vous allez bien? Ben ça y est, on a le gouvernement.
Sur la proposition de la Première Ministre, chargée de la planification écologique
voilà,
et énergétique.
Hier, en fin de journée, on va largement en parler dans nos journaux, puis analyser cela avec nos invités. Il y aura bien sûr toute la bande, toutes vos chroniques pour vous réveiller et vous informer en pleine forme. 6h40, la rencontre de Naïma Benchemal. Ce matin, l'actrice Bérénice Bejo qui a ouvert le Festival de Cannes mardi dernier. 6h50, la balade du samedi. On sera à Nice, puis sur l'île d'Oléron. C'est pas mal ça. Hein 7h10, mon invité Bertrand Piccard, l'explorateur. Quelles mesures doit vite prendre le gouvernement Borne en matière d'écologie. 7h20, Mathieu Alterman, on va parler des extraterrestres, mais oui. Et puis à 8h moins le quart, par ici, les sorties avec Stéphanie, avec Nicolas, avec Laurie, bien sûr, qui sera Laurie à Cannes. Vous savez tout. Est-ce que ça vous va? Eh bien, on est parti alors, samedi 21 mai. Soyez les bienvenus. Merci d'écouter Europe 1. Il est 6h.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Et la première édition est présentée par Johan Tritz. Bonjour Johan.
Bonjour à tous.
Beaucoup de suspense pour finalement pas grand chose. On connaît donc depuis hier la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne. On y retrouve beaucoup de têtes connues. Tous les détails dans ce journal.
Oui, des habitués mais aussi quelques surprises. La plus grande, la nomination de Pap Ndiaye comme nouveau ministre de l'éducation nationale est déjà cible de nombreuses critiques. Et puis il va y avoir du suspense ce soir, c'est la fin de la Ligue 1 avec la dernière journée de championnat. Tous les enjeux à la fin de ce journal.
Et puis dans la prochaine demi-heure, bien fait pour vous, on parlera de la mémoire et puis l'interview conso avec Jean-Yves Manot de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie. Ce sera à 6h20, réaction bien sûr à ce nouveau gouvernement. Mais tout de suite, bien sûr, la tendance météo avec vous Valérie Darmon. Allez-vous bien?
Je vais très bien, bonjour à tous. On respire enfin en Alsace et sur un bon tiers nord. La chaleur persiste en revanche du sud-ouest aux régions centre sous un plein ciel bleu retrouvé pour tous.
Tant mieux. Météo complète, allez, dans 7 minutes.
Europe 1.
Bonjour à tous. Beaucoup d'attentes pour finalement peu de changements. Presque un mois après la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence, le nouveau gouvernement est enfin connu. Sur les 27 nommés, 14 ministres étaient déjà présents lors du précédent. Jacques Serret, bonjour.
Bonjour.
Elisabeth Borne a fait des choix, mais il y a surtout des têtes déjà bien connues.
Il voulait à tout prix garder Bercy. Bruno Le Maire reste ministre de l'économie et son portefeuille est élargi aux finances et à la souveraineté industrielle et numérique. Autre poids lourd du précédent gouvernement qui ne bouge pas, Gérald Darmanin reste ministre de l'Intérieur. Pareil pour Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice. Sébastien Lecornu, lui, passe des Outre-mer au ministère des Armées. Gabriel Attal cède le porte-parole du gouvernement à Olivia Grégoire. Il est nommé ministre délégué chargé des comptes publics. Marc Fesneau hérite du ministère de l'agriculture. Brigitte Bourguignon succède à Olivier Véran au ministère de la Santé. Olivier Véran qui devient ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Enfin, il y a des nouveaux arrivants et des surprises. Pap Ndiaye, universitaire agrégé d'histoire, succède à Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation nationale. Jean-Yves Le Drian cède sa place au ministère des Affaires étrangères à Catherine Colonna, ancienne ministre sous Jacques Chirac. Enfin, Rima Abdoulmalak, ex-conseillère culture à l'Élysée, succède à Roselyne Bachelot au ministère de la Culture. 27 nominations au total, et avec la première ministre Elisabeth Borne, ce gouvernement est parfaitement paritaire, 14 hommes et 14 femmes.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Le premier conseil des ministres aura lieu dans 2 jours, ce lundi qui marquera aussi le début de la campagne pour les législatives. Les candidatures pour les 577 circonscriptions sont désormais closes depuis hier. Premier tour le 12 juin.
Elisabeth Borne qui sera pour l'occasion en déplacement aujourd'hui en Normandie, dans le Calvados où elle est candidate, puis elle présidera, comme vous le disiez, son premier conseil des ministres ce lundi. Le thème principal, le pouvoir d'achat.
C'est le sujet brûlant du moment. Alors que la France attend une inflation record cette année, la barre des 10% pourrait être dépassée. Invitée du journal de TF1, hier soir, la première ministre a annoncé les mesures envisagées par son gouvernement.
Le premier projet de loi, il portera sur ces sujets de pouvoir d'achat. Il y a un chèque alimentation sur lequel on travaille. Je vous dis, il y a les mesures pour le bouclier tarifaire qu'on a mis en place sur l'énergie pour stabiliser les prix du gaz et de l'électricité, que les Français ne subissent pas les hausses. Il y a la réduction qui existe sur les carburants, qui sera également prolongée. Et puis, il y a aussi des mesures qui sont très attendues. Une des personnes que vous avez interrogées le disait, sur la revalorisation des retraites, sans attendre le 1er janvier, comme ça se fait habituellement, des minima sociaux aussi, et puis le triplement de la prime du pouvoir d'achat, dite prime Macron, qui fera aussi partie de ce projet de loi.
Voilà pour Elisabeth Borne hier soir sur TF1. Un gouvernement désormais connu et déjà critiqué par l'opposition.
Oui, Jean-Luc Mélenchon parle du pire, terne et sans audace. L'extrême droite concentre, lui, ses critiques sur Pap Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. C'est sa première en politique. Ce proche d'Emmanuel Macron était auparavant directeur du musée de l'histoire de l'immigration. Un changement radical après le passage de Jean-Michel Blanquer. Alexis de la Fontaine.
Oui, ce franco-sénégalais, spécialiste de l'histoire sociale et des minorités, est totalement opposé idéologiquement à Jean-Michel Blanquer. Issu de la gauche, Pap Ndiaye est l'un des premiers chercheurs à aborder la cancel culture ou la condition des Noirs en France. Et certaines de ses déclarations font déjà polémique, comme l'assurance qu'il existe un racisme structurel en France et un racisme dans l'État. Ou encore sa volonté de faire de l'immigration un élément central de l'histoire nationale, mais aussi ses prises de position contre versé sur la police, affirmant un déni de la France sur les violences policières. Pap Ndiaye risque donc de mener une politique contraire à celle de Jean-Michel Blanquer, attaché depuis 5 ans à la lutte contre l'islamo-gauchisme et le wokisme à l'école et à l'université. Mais le nouveau ministre ne s'intéresse pas à ces débats, je regarde plutôt la société avec sa diversité et son métissage que certaines chaînes d'infos, affirme-t-il. Bref, sa mission sera avant tout de réconcilier le président avec la gauche et les universitaires.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
La santé à présent, après la pandémie de Covid, s'apprête-t-on à vivre une nouvelle crise sanitaire? C'est la question que l'on se pose après un premier cas d'infection en France à la variole du singe.
Oui, après les États-Unis et plusieurs pays européens, c'est donc au tour de l'Hexagone d'être touché. Cette maladie, qui ne frappe habituellement que plusieurs pays d'Afrique, inquiète les autorités sanitaires, car c'est la première fois qu'elle se développe dans d'autres continents. Elle était considérée jusque-là comme endémique, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas vocation à se propager. Selon l'OMS, 80 cas ont été recensés partout dans le monde pour l'heure sans gravité.
Johan, on passe au sport et ce samedi, c'est aussi la fin d'un chapitre.
Ouais, on pourrait parler de la fin du feuilleton. Kylian Mbappé, l'annonce de son choix de rester ou non au PSG devrait intervenir dans le week-end. Mais le chapitre en question, c'est la Ligue 1, 38e et dernière journée de championnat ce week-end. Et il y a encore du suspense à tous les étages, les principaux enjeux avec Jean-François Pérez.
Et c'est évidemment dans le bas du tableau que la soirée s'annonce irrespirable. Bordeaux n'est plus maître de son destin et promis à la Ligue 2, mais qui accompagnera les Girondins à l'échelon inférieur? Peut-être un autre monument du foot français, l'AS Saint-Étienne, qui est à égalité avec Metz. Les Verts, en déplacement à Nantes, doivent obtenir un meilleur résultat que les Messins, qui se rendent à Paris pour ce qui sera peut-être le dernier match de Kylian Mbappé au PSG. Au mieux, Saint-Étienne obtiendra un sursis, une place de barragiste face à Auxerre. Pour le reste, la lutte sera européenne. Opération Ligue des Champions pour Monaco et Marseille. Les Monégasques se rendent à Lens. L'OM accueille Strasbourg. Deux clubs qui visent eux aussi des strapontins européens. Mais ils ne sont pas les seuls. On suivra également Rennes qui jouera à Lille et Nice à Reims. Relégation, Ligue Europa ou Ligue des Champions, le suspense durera sans doute jusqu'à la dernière minute, sauf pour le PSG qui fêtera en grande pompe au Parc des Princes son 10e titre de champion de France.
Jean-François Pérez pour Europe 1 et à l'étage inférieur, Auxerre a remporté hier le match de barrage face à Sochaux au tir au but et peut encore croire à la montée. Les joueurs affronteront ensuite le 18e de Ligue 1 en match aller-retour. Le vainqueur sera dans l'élite l'an prochain.
Allez, on termine avec ce groupe mythique qui fête ses 40 ans.
Vous avez reconnu Thierry, j'en suis sûr. Indochine, le groupe, a fait un concert ce soir au Stade de France pour fêter en fanfare son anniversaire. Nicolas Sirkis et sa bande entament ensuite une tournée partout en France. Et dépêchez-vous si vous voulez des places, parce qu'il y a les concerts sont quasiment complets.
Ah ouais.
À Bordeaux, à Marseille, à Lyon et à Paris. Il y a encore quelques places à priori pour ce soir.
Vous avez des places ou pas?
Absolument pas. Et vous? Je ne crois pas non plus. Okay. Mais on est de tout cœur avec, bien sûr.
Merci, c'était le journal de Johan Tritz. À tout à l'heure, Johan.
Non, ça ne nous rajeunit pas.
Non,
ça nous
c'est rajeunit vrai. Pas. Le temps de votre Samy, Valérie Darmon, à Canary Bay ou ailleurs. En tout cas, c'est le retour du beau pour tous.
Oui, exactement. Hein. Il fait beau partout après les orages d'hier. Le calme qui revient, notamment sur le nord. Le ciel qui sera un petit peu chargé ce matin sur les régions du bord de Manche. Plus variable cet après-midi. Ailleurs, bien dès que le soleil va se lever, c'est grand beau. Au sud, c'est déjà le cas avec soleil et chaleur qui dominent. Quelques entrées maritimes toujours sur le Roussillon. les minimales contrastées. Oui. 19 à Nice à l'heure où on se parle, au même moment 9 degrés à Rennes, 18 à Clermont-Ferrand, 17 à Mulhouse, 15 degrés à Bordeaux, 13 à Aurillac et Strasbourg, 12 à Bourges, 10 degrés à Vannes et la chaleur qui revient cet après-midi avec des valeurs entre 18 à Saint-Brieuc et 36 à Lombres et Sous-Abri, à Cahors et à Albi.
Merci beaucoup Valérie Darmois, à tout à l'heure. Allez, dans un instant, on va parler de nous, de vous et de notre mémoire. Est-ce que vous en avez de la mémoire? Et puis, tous les samedis, vous le savez, la question conso à 6h20. Ce matin, réaction au nouveau gouvernement. Mais il manque un ministère de la consommation et un autre du logement. C'est ce que va nous dire Jean-Yves Manot, le président de l'association de consommateurs CLCV. Mais avant cela, à 6h09, c'est l'heure des pronostics. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, direction l'hippodrome d'Auteuil pour ce premier quintet de ce week-end consacré à l'obstacle. Et c'est sur le parcours de haies long de 3600 mètres, dans un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans, qu'il va se courir. Et parmi les 16 partants, il est légitime d'accorder un très large crédit au numéro 7, Iban Rock, qui se recommande de 2 secondes places pour autant de tentatives dans cette catégorie des quintets et qui pourrait bien s'imposer pour sa troisième sortie à ce niveau. On lui opposera les numéros 1 Mister Vision, 4e tout près de mon favori dans le quintet du 27 mars à Auteuil, 2 Saint-Langis, bon sauteur, confirmé lui aussi à Auteuil et muni pour la première fois d'une paire d'œillères afin qu'il soit plus concentré dans la phase finale sur son job de cheval de course, et 11 Toscana du Berlay, certes encore inexpérimenté mais visiblement doué, qui pourrait bien pour sa première tentative dans un quintet faire d'emblée l'arrivée. Ensuite, méfiez-vous de Zerktakt, le numéro 4, façonné en province et qui a pour moi les aptitudes pour réussir à Auteuil, avec Jesse Ressel, le numéro 8, l'une des trois seules pouliches à oser défier les mâles. Enfin, les numéros 3, Irish Bar et 14, Lokias, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 7, As, 2, 11, 4, 8, 3 et 14.
C'est noté, merci beaucoup Thierry Léger.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
6h11, tous les week-ends à cette heure-ci, les meilleurs moments de l'émission bien fait pour vous. En semaine, c'est du lundi au vendredi. Mélanie Gomez et Julia Vignali recevaient cette semaine le mentaliste Fabien Olicard et le champion de mémoire Florian Manicardi. Question, est-ce que vous avez de la mémoire?
C'est comme un sport de haut niveau ou c'est inné chez vous au départ?
Alors, c'est totalement un entraînement. C'est comme un sportif de haut niveau. Je m'entraîne depuis 2019 pour les compétitions, mais j'ai découvert les techniques de mémorisation bien avant cela. Je les ai découvertes en 2017 grâce à un certain invité.
Ah oui, on est une émission de potes aujourd'hui, ah, hein, grâce à Fabien.
Mais non, parce que je faisais des vidéos sur le sujet.
Voilà,
là.
Et on les voyait. En
vous
se
avez
disant,
quel
mais
âge
dingue.
À l'époque?
Alors, à l'époque, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans, j'avais 20 ans. J'avais
ah, vous voyez, ans. Il s'en ouais. souvient plus.
Alors, j'étais en L3 de droit. D'accord. Ça, c'est sûr, j'étais en L3 de droit. Et comme je n'avais pas vraiment de difficultés, mais comme on avait énormément d'articles, d'arrêts à retenir, j'ai cherché par hasard des techniques pour mieux mémoriser. Mais ouais. Non pas que j'avais des difficultés, mais juste comme ça, par curiosité. Et je suis tombé donc sur une vidéo de Fabien Olicard, qui parlait donc de la technique dont vous parliez, c'est-à-dire la table de rappel. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il faut aller plus loin, en fait. Il faut que je regarde quelles sont toutes les techniques existantes.
On va les détailler, les techniques, dans un instant. Mais ça veut dire que si moi, je décidais de me lancer demain, ou Julia, qui
moi,
sait,
hein,
dans le championnat de mémoire et de vous détrôner, on en serait capable si on y mettait de l'entraînement et de l'énergie, quoi, on va dire.
Il faudrait de la préparation, mais oui, bien sûr.
Moi, c'est pas mal de préparation.
Je ne me souviens jamais de rien, même pas de mes rêves. Alors, va falloir m'aider à Fabien Olicard. Vous êtes mentaliste, passionné par le cerveau. Ça fait combien de temps que vous vous êtes penché, vous, sur le sujet? Je crois que ça remonte, c'est ça, à vos années lycée?
Même avant, hein, dès l'âge de 8 ans. En gros, moi, à l'âge de 8 ans, ma mère, elle me fait passer un test de QI pour savoir si je suis un génie ou si je suis récupérable.
Et vous
parce
êtes
que
quoi,
j'apprends pas trop mes cours. Ni l'un ni l'autre, mais je suis très curieux, par contre, et je passe un peu d'un sujet à l'autre. Et sur ce test, on s'aperçoit que j'ai une bonne mémoire photographique. C'est-à-dire qu'il y a une partie du test qui est dédiée à ça. Et c'est une forme de mémoire un peu différente, parce qu'il n'y a pas vraiment de mémoire prédominante, hein, comme on dit, mais ça, on y reviendra.
Et c'est quoi la mémoire photographique, par exemple?
C'est une mémoire éditique, c'est-à-dire que quand je regarde quelque chose, si je fais l'effort d'essayer de m'en rappeler, je vais m'en rappeler un peu plus précisément que la moyenne.
C'est voilà. Génial.
Et juste, le fait de savoir ça et qu'on m'explique ça, ça stimule ma curiosité et je me mets à lire des bouquins de mnémotechnique que j'emprunte à la médiathèque, à la bibliothèque et tout ça. Donc j'ai 8 ans à ce moment-là et je trouve ça un peu marrant. En fait, j'ai l'impression de tricher. Quand on apprend ce genre de technique, on se met à tout retenir et tout le monde fait « Waouh, t'es trop fort !» Et toi, dans ta tête, tu dis « Ah ah ah, s'il savait à quel point c'était simple !» Et donc, c'est comme ça que je commence tout petit.
Alors Fabien Olicard, combien de types de mémoires différentes existent environ hein, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que vous nous expliquez les différences?
En fait, on a beaucoup de types de mémoires rangées dans deux grandes familles. Les mémoires à court terme, les mémoires à long terme. Mémoire à court terme, c'est comme la mémoire de travail. C'est durée de vie, on va dire 15 secondes au grand maximum. Je vous donne mon digicode de porte d'entrée. Vous le tapez, la porte se referme, vous l'avez oublié. Ça, c'est une mémoire court terme.
Celle-là, on voit complètement.
Et après, il y a plusieurs mémoires à long terme. Pour citer les principales, il y a la mémoire procédurale, c'est la mémoire du corps. Quand vous mettez la jambe droite devant pour marcher, vous vous demandez rarement quelle est la deuxième jambe à mettre ensuite. Ça, c'est la mémoire du corps. Elle est très efficace et très dure de rentrer dans cette mémoire. Par contre, c'est celle qui est le moins, qui est dégradée en dernier, par exemple, en cas de problème, de trouble.
C'est ça qui fait qu'on sait faire du vélo quasiment
exactement,
toute sa vie. Une fois qu'on a...
C'est pour ça qu'on dit ça s'oublie pas. Quoi.
Oui, par exemple, un musicien qui a sa guitare, vous dites, vous pouvez m'écrire la partition de tel morceau, il sait plus. Vous lui donnez la guitare, il trouve la première note et hop, tout s'enchaîne.
Ou le piano, moi j'en ai fait 10 ans, je sais plus rien jouer du tout, je ne joue plus, mais à chaque fois que je me mets devant un piano, ça revient tout seul.
Ça, c'est la mémoire procédurale.
Et pour le digicode, alors parfois, c'est juste parce qu'il faut qu'on soit... On n'a pas le code en tête, mais il faut qu'on soit devant le digicode pour s'en souvenir.
Des fois, c'est un peu en procédural. Des fois aussi, c'est lié à l'hippocampe qui est une espèce de GPS de vos souvenirs. Et comme vous êtes de nouveau dans la bonne situation, il va raccorder des souvenirs de mémoire sémantique, ça c'est la mémoire des données, ou de mémoire épisodique, c'est la mémoire du souvenir. Par exemple, vous savez ce que vous avez fait hier soir. Suivant la soirée, évidemment. Et ça, il n'y a pas besoin de le réviser, la mémoire du souvenir. D'ailleurs, c'est une mémoire que notre ami a beaucoup utilisée en tant que champion, je pense, la mémoire épisodique, la mémoire du souvenir, parce qu'on arrive, en fait, nous, avec des images, à trafiquer nos types de mémoire pour utiliser cette mémoire du souvenir qui est très efficace plutôt qu'une mémoire à court terme, par exemple. On peut passer de l'une à l'autre.
C'était la question que je voulais poser à Florian Manicardi. Quelle est la mémoire, vous êtes le plus performant, celle dans laquelle aussi également vous êtes le moins à l'aise, à votre avis?
Alors, même si c'est très psychologique, on va dire que ma mémoire visuelle est plutôt bien développée. En tout cas, je suis assez confiant. Pour preuve, lorsque je vois quelqu'un, je préfère voir son prénom écrit plutôt qu'on me le donne uniquement à l'oral.
Ça veut dire que... vous savez comment je m'appelle, là?
Oui, quand même.
Comment je m'appelle?
Julia.
Ouais, très bien. Mais comment vous l'avez retenu, par exemple?
Bah, j'ai regardé.
Je ne l'ai pas marqué.
Non, non, c'était écrit partout, sur toutes les affiches.
Il y a des pancartes partout dans la radio, là.
Non, mais c'est dingue. Et si je vous l'avais écrit et que vous ne l'aviez pas vu, ça y est, je vous écris Julia pour une fois et vous l'avez pour toujours.
Alors, pour toujours, bon, il faudrait que je fasse des petits rappels de temps en temps. Mais en tout cas, c'est bien imprimé. Après, je vais utiliser une technique en plus pour justement imprégner votre prénom avec votre visage. Et je vais vous imaginer, par exemple, en train de faire le signe de Jules.
Ah ouais, pourquoi moi? Parce que Julia.
Pourquoi Jules?
Exactement.
Et Mélanie.
C'est pas au hasard. Alors, Mélanie, je suis désolé.
Aïe, aïe, aïe.
Je suis désolé. J'ai pensé à de la mélasse.
Oh.
Je suis désolé.
Voilà, bien fait pour vous, c'est du lundi au vendredi de 11h à midi sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h17, l'Info Express, Yoann Tritz.
Des habitués, mais aussi de nouvelles têtes au sein du gouvernement. Hier, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, a dévoilé la liste des nouveaux ministres. Quelques surprises, la nomination de Pap Ndiaye à l'éducation ou de Rima Abdul-Malak à la culture. Retour aussi d'un ministère des Sports à part entière à 2 ans des JO de Paris. Un gouvernement qui devra être à l'écoute du peuple, c'est selon un sondage du quotidien Le Parisien, le principal souhait des Français. Et l'une des principales préoccupations en ce moment, c'est le pouvoir d'achat, thème qui sera abordé lors du premier Conseil des ministres lundi. Hier, une partie de la France était sous la pluie, l'orage et le vent, des intempéries qui ont fait de gros dégâts dans l'Ouest notamment. Les pompiers ont enregistré 250 interventions en Mayenne. En Sarthe, 1500 foyers ont été privés d'électricité. Orage en France, tornade en Allemagne, la ville de Paderborn a été touchée, faisant près de 40 blessés, dont 10 graves. La fin des combats à Mariupol en Ukraine, après une résistance de plusieurs semaines, les soldats soldats ukrainiens encore présents dans l'usine d'Azovstal se sont rendus à la demande du commandement, la Russie d'y avoir fait des centaines de prisonniers. Pendant ce temps, les combats se poursuivent sur le front Est. Et du sport, avec les premiers coups de raquette qui arrivent très vite à Roland-Garros, le tournoi débute demain. 9 Français seront sur les cours, Europe 1 et partenaire officiel.
Bien sûr, merci Johan que je viens de prendre en photo. D'ailleurs, vous verrez sa photo sur notre site Facebook Europe Matin Weekend. À tout à l'heure. Dans un instant, la question conso, réaction bien sûr après la nomination du nouveau gouvernement hier en fin de journée. Va-t-on assez loin sur le pouvoir d'achat, sur le logement ? Je reçois Jean-Yves Manot, le président de l'association de consommateurs CLCV. C'est votre matinale week-end, on parle de vous, à tout de suite.
Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.
La question conso, c'est tous les samedis matins dans votre matinale week-end à l'heure où... L'urgence, c'est bien sûr le pouvoir d'achat. On connaît depuis hier soir le nouveau gouvernement. Plusieurs associations de consommateurs lancent un appel fort. Bonjour Jean-Yves Manot.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie. Et vous demandiez un vrai ministère de la consommation. Il n'y en a pas. Est-ce que vous êtes déçu ce matin ?
Alors, je pense qu'il faut attendre la nomination des secrétaires d'État qui viendront après les élections législatives. Mais il y a deux choses. Le mot consommation n'a pas été prononcé. Le mot logement non plus.
Exact.
C'est une inquiétude encore supérieure au fait de ne pas avoir potentiellement de secrétaire d'État à la consommation. Voilà. Donc, je constate que les principaux postes n'ont pas changé de poste. Non, n'ont pas changé de fonction et de titulaire, bien évidemment. Pour autant, nous verrons avec, d'après ce que j'ai compris, Amélie de Montchanin, des ministres des territoires doit dépendre, enfin, le logement doit dépendre de son ministère.
Mmh. Mais en tout cas, ce que vous dites ce matin, c'est que vous allez continuer à mettre la pression jusqu'au prochain remaniement avec plus de secrétaires d'État.
Alors, il est clair qu'il y a besoin, me semble-t-il, de prendre en compte la réalité de la vie des Français et dans leur vie quotidienne, et la consommation et le logement en font partie. Et il serait regrettable qu'il n'y ait pas des postes en responsabilité directe de ce poste important de dépenses et de vie quotidienne des Français.
Alors, vous avez vu, hein, Bruno Le Maire reste ministre de l'économie. C'est lui donc qui va gérer cette fameuse loi d'urgence sur le pouvoir d'achat qui est prévue pour le mois de juillet. Vous avez commencé à lui parler déjà, à discuter sur le contenu de cette loi avec Bruno Le Maire.
Alors, oui, effectivement, ça fait 8 jours que nous l'avons effectivement rencontré. Et pour autant, nous avons abordé différents sujets. La question du logement, qui n'avait pas été abordée du tout, a été abordée lors de cet entretien, avec des demandes spécifiques, et notamment la nécessité de bloquer les loyers, dans la mesure où les locataires dépensent entre 25 et 40% de leur budget à assumer la charge de logement, et l'inflation et donc l'IRL, l'indice de revalorisation des loyers qui dépend directement de l'inflation, est en forte hausse, alors que les revenus des personnes ne suivent pas le même rythme. Et donc, de façon extrêmement précise, soit il y a l'évolution de l'APL liée à l'inflation, et en même temps, ça ne couvre qu'une partie des demandeurs, des locataires, soit le blocage des loyers, qui nous semble la solution la plus simple et la plus efficace.
Et sur le gel des loyers, vous avez été entendu, semble-t-il, par Bruno Le Maire. Qu'est-ce qui vous paraît ?
C'est une discussion ouverte avec un intérêt évident sur cette proposition-là. Très honnêtement, je pense que potentiellement, s'il y a blocage des loyers, gel des loyers, il n'y aura pas évolution de l'APL, ce qui potentiellement peut faire économiser 1 milliard sur le budget de l'État. Et donc, quand on prend les deux dimensions, je comprends que potentiellement, il y aurait un avis favorable du gel des loyers de la part du gouvernement, au moins de la part du ministre de l'économie de l'époque, qui est le même aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'en passera. On pensera bien évidemment la première ministre et le président de la République.
Oui. Jean-Yves Manot avec nous ce matin, président de la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie. En tout cas, la vie chère modifie le comportement des consommateurs, on le voit bien. Je lisais notamment qu'on se prive actuellement de fruits, de légumes frais, c'est bien cela ?
C'est une réalité d'abord, c'est relativement cher pour le budget des ménages. Vous savez, le problème de fond en France, c'est le niveau des revenus qui est extrêmement faible par rapport aux dépenses courantes. L'essentiel de leur budget sont consacrés aux dépenses contraintes. Mmh. C'est logement, assurance de l'appartement, de la voiture, dépenses de carburant, la mutuelle, etc. Et une fois qu'on a payé tout ça, il reste peu de choses.
Bien sûr.
Dès aujourd'hui, les familles françaises sont obligées d'arbitrer. Et le premier poste qu'on arbitre, c'est évidemment la composition de son frigo. Mmh. Qu'est-ce que les achats quotidiens ? Effectivement, les fruits qui arrivent, les fraises sont hors de prix, etc. Et donc, les légumes frais sont extrêmement chers.
Cher.
Et donc, potentiellement, il y a des restrictions. Et je pense qu'aujourd'hui, on est au seuil du fait d'avoir des impayés potentiels parce qu'il faut arbitrer. Et au bout d'un moment, quand on n'est plus capable de nourrir correctement sa famille, on supprime d'autres paiements.
Ouais.
Et je pense que le chèque alimentaire qui est envisagé et qui fait partie du plan
dans la loi d'urgence,
le plan d'urgence, doit être, c'est pas ou 40 ou 60 euros et on ne connaît pas le rythme. Alors, évidemment, ce chèque doit exister. Mais en fonction de la composition familiale.
Rapidement.
Et en fonction du rythme potentiel, je pense que c'est un chèque mensuel jusqu'à la fin de l'année qui était indispensable. Ce n'est pas du superflu.
Rapidement.
C'est aujourd'hui la situation rapide et urgente des familles.
Cette inflation, rapidement, elle va durer. Cela vous inquiète pour les prochains mois. Qu'est-ce que vous dites ce matin en quelques mots au nouveau gouvernement ?
Toutes les mesures d'urgence qui ont été prises, le gel, le bouclier tarifaire gaz énergie, plus le chèque alimentaire, plus le gel des loyers, doit être prolongé au-delà du 31 décembre 2022, car le 1er janvier 2023, par miracle, le baisse de l'énergie n'aura pas lieu, etc. Et la baisse des prix de consommation non plus. Donc oui, il faut envisager, se mettre autour de la table pour voir comment on fait face à cela dans le cadre d'un budget de l'État, mais surtout du budget des familles. Et honnêtement, l'augmentation et du SMIC de 4%, etc., et des minima sociaux ne suffiront pas pour toute la couche légèrement supérieure qui ne touche pas d'aide aujourd'hui. Et il y a besoin là de réfléchir à des équilibres à trouver nouveaux, sans doute, sur la part essentielle, me semble-t-il, des dépenses contraintes des familles où l'État doit prendre en charge une partie relativement importante et dans la durée, au moins tant qu'on a un niveau d'inflation et tant que le niveau des revenus n'évolue pas aussi vite pour couvrir l'ensemble de ces dépenses.
La question conso ce matin avec Jean-Yves Manot de la Confédération de la Consommation du Logement et du Cadre de Vie. Merci à vous, bon samedi.
Merci à vous.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
6h30, vous le savez, les coulisses de cette matinale, nos petites infos en plus, c'est sur notre page Facebook Europe Matin Weekend. L'information de ce samedi matin, Clément Gouiz. Bonjour Clément.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Fin du suspense, on connaît le casting du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Place maintenant au travail, les priorités, le pouvoir d'achat, l'écologie ou encore la réforme des retraites. On en parle en début de ce journal.
Qui est Pap Ndiaye ? C'est l'un des nouveaux visages du gouvernement. Sa nomination au poste de ministre de l'Éducation nationale a créé la surprise.
10 ans après sa descente, Auxerre se met à rêver de Ligue 1. La GIA a écarté hier Sochaux au tir au but. Il ne reste plus que 2 matchs pour revenir dans l'élite.
Au sommaire de la prochaine demi-heure, 6h40, Naïma Benchemann recevra l'actrice Bérénice Bejo à l'occasion de la sortie du film Coupé. Et puis à 7h10, la balade du samedi de Marion Sauveur et Vanessa Zah. Nous irons ce matin à Nice pour la fête de mai. Puis sur l'île d'Oléron, déguster des artichauts. Mais avant cela, la tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Beau et chaud, des maximales contrastées entre nord et sud, avec 15 à Boulogne-sur-Mer aux heures les plus chaudes et 36 à Cahors.
Allez, la météo version longue, c'est dans 7 minutes.
Europe 1.
3 semaines après la réélection d'Emmanuel Macron, on connaît enfin la composition de son gouvernement.
La première ministre Elisabeth Borne a qualifié hier sur le plateau du JT de 20h de TF1 son gouvernement de paritaire et équilibré. Elle en a profité également pour insister sur sa fibre sociale et mettre en avant les priorités de son gouvernement. Dans le secteur économique, les dossiers prioritaires sont nombreux, un mode des camps. Il y a la question du pouvoir d'achat et la réforme des retraites.
Oui, le pouvoir d'achat, thème central de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron avait promis que l'une des premières mesures qu'il prendrait serait de mettre en place un chèque alimentaire pour aider les ménages les plus modestes. Un projet de loi sur le pouvoir d'achat devrait donc être présenté dans la foulée des élections législatives début juillet. Un texte qui comprendra aussi la prolongation du bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année ou encore la suppression de la redevance audiovisuelle. Voilà pour les sujets qui seront traités en priorité. Et puis il y a bien évidemment ce dossier majeur et sensible de la réforme des retraites. Elle devait être menée pendant le premier quinquennat, mais la crise Covid est passée par là. Un dossier brûlant qui devrait occuper Elisabeth Borne dès le lendemain du second tour des législatives. Et enfin, autre sujet majeur, celui de la planification énergétique et écologique. Promesse, là aussi, du président Macron avec la relance du nucléaire alors que l'Europe essaie de se détacher des importations de gaz et de pétrole russe. Elisabeth Borne s'appuiera sur deux ministres, Agnès Pannier-Runacher à l'énergie et Amélie de Montchalin à l'écologie.
À la Maud Descamps du service économie d'Europe 1, une nomination crée la surprise. Il s'agit de Pap Ndiaye à la tête du ministère de l'Éducation nationale.
Cet historien franco-sénégalais va remplacer Jean-Michel Blanquer. Arthur Delaborde, vous avez assisté à la passation de pouvoir hier soir entre les deux hommes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout les oppose.
Un choix de rupture de la part d'Emmanuel Macron, un changement radical qui se profile par rapport à la politique menée pendant 5 ans. Jean-Michel Blanquer a en effet dénoncé les ravages de l'islamo-gauchisme à l'université. Il s'est aussi montré très engagé dans la lutte contre le communautarisme et le wokisme à l'école. Un positionnement à l'exact opposé de Pap Ndiaye, qui fut par exemple un des premiers chercheurs français à avoir développé une pensée proche du mouvement woke importé des États-Unis. Cette différence notable sur le plan idéologique n'a pas été évoquée lors de la passation de pouvoir rue de Grenelle. Pap Ndiaye a prononcé un discours minimaliste, voire prudent, mettant notamment en avant son parcours.
Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine dont l'école est le pilier.
Jean-Michel Blanquer a de son côté dressé le bilan de son action, insistant aussi sur sa vision de la République et invitant son successeur à la vigilance sur les valeurs en évoquant l'assassinat de Samuel Paty.
Samuel Paty nous oblige à une vigilance sur nos valeurs. Et cette vigilance sur nos valeurs, évidemment, vous en êtes maintenant le garant.
Jean-Michel Blanquer, qui après cette prise de parole a quitté son ministère sous les applaudissements de ses collaborateurs.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Cette nomination a suscité de nombreuses critiques. Le député de la France insoumise Alexis Corbière parle de coup médiatique, le seul de ce gouvernement terne. Il ajoute, cela ne désamorcera pas la profonde colère dans l'éducation nationale. À droite également, le patron de Reconquête, Éric Zemmour, s'est exprimé sur Twitter pour le tacler. Je cite, Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. Pap Ndiaye va s'en charger. Même son de cloche pour Marine Le Pen. Elle dénonce le choix d'un indigéniste assumé pour assurer la fonction de ministre de l'Éducation nationale.
Politique encore, François Hollande renonce à se lancer dans la bataille des législatives.
L'ancien président de la République l'a annoncé hier dans le journal La Montagne. Il a hésité longuement à se présenter dans son ancienne circonscription en Corrèze. Finalement, il va soutenir la candidature dissidente d'Annick Tess, conseillère départementale PS.
À l'étranger, à présent, la Russie concentre ses efforts militaires dans l'est et le sud de l'Ukraine.
Elle a repris totalement la ville de Mariupol. L'usine Azovstal a été entièrement libérée. Ce dernier bastion défendu par les forces ukrainiennes est désormais aux mains des Russes. Et puis la Russie coupe le robinet du gaz à la Finlande. La livraison sera suspendue dès aujourd'hui, annonce le groupe énergétique public finlandais. C'est une conséquence du refus de la Finlande de payer le géant russe Gazprom en rouble.
Allez, on passe au sport. Auxerre est à 180 minutes de retrouver la Ligue 1.
Ouais, le club bourguignon a écarté hier soir Sochaux en barrage de la Ligue 2. Tout s'est joué au tir au but. Le capitaine de la GIA, Birama Touré, a inscrit le but libérateur. Et voici sa réaction au micro de Cédric Chasseur.
Énormément de joie. Tout un peuple qui explose. Ça fait du bien de vivre ces moments-là. On a un espoir. On sent que voilà, il nous reste 2 matchs pour faire ce que le club attend depuis 10 ans. C'est rendre heureux énormément de personnes. Donc voilà, on a cette pression sur les épaules, mais c'est une bonne pression.
Et puis
on passe à Roland Garros. Voilà, oui. Bah oui, c'est demain, ça commence demain. Et Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, est l'invité ce soir d'Europe 1 Sport.
Oui, pour sa deuxième année à la tête de la fédération, elle a du pain sur la planche avec notamment la formation des jeunes joueurs et joueuses françaises qui doit, selon lui, rattraper le modèle moderne.
on a un trou de génération. Le tennis français, aujourd'hui, fabrique de bons joueurs. On a un vivier, on a un système de formation qui est bon jusqu'à 12-14 ans. Et derrière, on a probablement identifié des failles. Alors, on parle de failles, mais on parle aussi d'une évolution. Les choses ont changé. Aujourd'hui, on est parti sur un modèle différent où il y a des entraîneurs individuels qui font du très bon travail. Et donc, je pense qu'on doit modifier notre modèle par rapport à cette situation.
Rendez-vous donc ce soir dans Europe 1 Sport pour découvrir l'interview en intégralité de Gilles Moreton, président de la FFT.
Voilà, Europe 1 qui est radio officielle, bien sûr, de Roland Garros. Ça commence demain. Et puis demain matinale spéciale, on va chausser nos baskets avec toute l'équipe, y compris d'ailleurs Valérie Darmon. C'était le journal de Clément Gouise. À tout à l'heure, Clément. Valérie Darmon.
Oui, Roland Garros sous le soleil. Ah demain, bah oui, demain, à partir de demain.
Il va faire beau.
Et oui, il va faire beau tout le week-end.
Le beau temps est revenu, ça y est.
Exactement. Hein. Bretagne, bassin parisien, Normandie, Hauts-de-France, Alsace, Bourgogne, Centre. Après les fortes chaleurs de la semaine, eh bien, l'atmosphère redevient respirable et ensoleillée. Dès ce matin, au sud de la Loire, c'est estival aussi, bien sûr, avec des minimales entre 17 et 20 degrés, entre Auvergne et Rhône-Alpes notamment. En journée, les très fortes chaleurs qui se maintiennent du centre au sud-est avec 30 à 33 et possiblement jusqu'à 35 degrés dans les Landes. Le pourtour méditerranéen qui conserve aussi un temps calme, à part les entrées maritimes en Roussillon. Et il fera 34 en Provence aujourd'hui.
Merci Valérie, à tout à l'heure 7h. Allez, notez qu'à 7h10, on partira en balade avec Vanessa et Marion. On sera à Nice ce matin, puis on va déguster des artichauts sur l'île d'Oléron. Mais tout de suite à 6h38, comme tous les samedis, c'est la rencontre de Naïma Benchemann.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Et Naïma a rencontré l'actrice Bérénice Bejo. Elle était sur les marches de Cannes un mardi lors de l'ouverture du festival pour présenter le dernier film de son époux Michel Hazanavicius, dans lequel elle joue. Titre du film, Coupé.
Bonjour Bérénice Bejo.
Bonjour.
Drôle d'endroit pour une rencontre, nous sommes à Paris devant la Maison de l'Amérique latine, un endroit qui fait écho à votre enfance, vous qui êtes née en Argentine. Vous arrivez en France à l'âge de 3 ans après que vos parents aient fui la dictature militaire.
Oui, c'est ça. Mes parents sont partis d'Argentine quand j'avais 3 ans pour des raisons politiques et ils ont choisi Paris parce que c'est la ville lumière, la ville des cultures, la ville de la liberté d'expression. Et qu'ils avaient envie de croire qu'ils allaient avoir une meilleure vie ici que là-bas, ce qui est certainement vrai, et qu'ils voulaient nous donner des chances de réussir, ma petite sœur et moi.
C'est votre père hein, qui était un grand cinéphile. C'est lui qui vous a initié, je crois, au cinéma.
Oui, mes parents étaient des cinéphiles, mais c'est vrai que mon papa est quand même, on va dire, le cinéphile de la famille. Et il nous a tous embarqués, ma mère, ma sœur... à regarder des films tous les week-ends, des vieux films italiens, américains, français, anglais. C'est vrai que c'était, ça fait partie de ma culture, de mon éducation, quoi. Le cinéma, aller au musée, aller voir les films en version originale, surtout ne pas rater le générique de début, lire autant qu'on peut. Voilà, mes parents m'ont donné beaucoup de... m'ont transmis la curiosité, en fait.
On va retracer comme ça quelques moments forts de votre carrière. Après une formation de théâtre et quelques seconds rôles, vous décrochez le premier rôle dans Meilleur espoir féminin de Gérard Jugnot, pour lequel vous serez nommée dans la catégorie du même nom au César en l'an 2000.
Papa, je suis comédienne, je le sais, je le sens.
Laetitia, prends, je vais être plus fort. Bouge-toi.
Tu délires, tu crois quoi? Que je vais passer ma vie dans ton bled pourri à mettre des rouleaux, à faire des régerges en petite vieille? Tu crois que ça m'excite ce genre de vie? Une vie de con, oui.
C'est ma vie, je te signale.
C'est bien ce que je te dis.
J'avais d'ailleurs rencontré pas mal de gens. Il y avait, je me souviens de Jean-Pierre Bacri, qui avait eu un mot tout doux pour tout gentil sur moi, sur ma sœur. Nous avait souhaité la bienvenue dans ce métier. Il y avait, j'étais un peu fascinée. J'avais 22 ans, je crois. Et tout d'un coup, de rencontrer comme ça des vedettes. J'étais avec Gérard Jugnot qui me présentait, mais qui était aussi qui me protégeait. Non, les Césars, c'était un peu particulier. C'est-à-dire, C'est un moment dont on rêve et puis une fois qu'on y est, on a vraiment très très peur quand on est toute jeune. Ça fait vraiment peur, c'est très intimidant. Donc je me souviens que j'avais été très très intimidée. Et voilà, ma sœur était sublime. Elle était dans une robe blanche moulante. On aurait dit une vedette américaine des années 50. Enfin, moi.
Il y a un film charnière, on est en 2005, ou plutôt une rencontre décisive dans votre carrière, mais surtout dans votre existence. Il y a un avant et un après Michel Hazanavicius.
Ah bah oui, de toute manière, j'allais dire, il n'y a rien avant. Si, il y a plein de choses avant, mais il y a la jeune fille et puis après il y a la femme, quoi. Il y a des rôles et des rencontres qui vous transforment. Bah, c'est vrai que professionnellement, de toute manière, il y a un avant-après OSS.
Comment est votre blanquette ?
Elle est bonne.
On me dit le plus grand bien des harengs pommes à l'huile.
Le patron vous en apportera un ramequin. Vous vous ferez une idée.
Et puis après OSS, il y a eu d'autres films, et puis il y a eu des enfants, et puis il y a eu encore des films, et encore des projets. Donc bon, c'est une rencontre, voilà, vous faites dans votre vie, vous avez des moments importants. Et c'est vrai que bah, Michel, c'est un moment important qui perdure dans le temps.
Easy Artist, évidemment, au succès mondial. Comment vous avez vécu ce succès ?
Eh bien, j'ai un souvenir de l'avoir plutôt bien vécu, je crois.
Et le César de la meilleure actrice est attribué à Bérénice Bejo dans The Artist.
Je dois vous avouer quelque chose. Je le voulais vraiment. Je le voulais. Je vous ai tout adoré. Toutes les autres actrices y sont nominées, mais je le voulais. Je pensais pas que je serais tellement émue, mais j'arrive pas à y croire, en fait.
Michel était sur un nuage. Je me souviens que lui, quand on a écrit, réalisé, porté, coproduit, enfin, c'était vraiment son bébé. Et donc, je l'ai vécu de l'intérieur, parce que j'ai eu de la chance de le vivre avec Michel. D'ailleurs, j'ai plein de vidéos que j'ai faites au petit déjeuner, le soir. Un jour, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Mais j'ai tendance à dire souvent, comme je perdais beaucoup, disons que mon ego est resté un peu à sa place. Et du coup, moi, je volais pas au-dessus des nuages. J'étais vraiment là et je regardais avec bonheur tout ce qui se passait et tout ça. Mais j'étais plutôt... je sais pas comment dire. On est un peu dans une situation tellement énorme, parce que vous rencontrez des vedettes américaines, les gens viennent vous serrer la main, vous remercier, vous féliciter. Il y a un truc un petit peu absurde, donc voilà, avec des moments où c'était plus difficile, mais c'était une période très excitante. On voyageait beaucoup, les enfants sont venus à Los Angeles, ma petite elle est née, après elle est venue en promo. Donc voilà, c'est une période de vie qui a un beau moment, quoi. C'était un très beau moment.
Vous êtes une actrice qui avait tourné dans énormément de pays. Vous avez tourné en Italie, vous avez tourné en Argentine. Est-ce que vous voyez un petit peu comme une sorte d'actrice française, trait d'union, un peu ouverte sur le monde, finalement?
Trait d'union. Et c'est pas mal, ça. J'aime bien. En fait, je réfléchis pas vraiment, mais je sais que pour moi, ça a toujours été... très enrichissant de me dire, tiens, il y a un Israélien qui vient de m'appeler, j'ai fait un film avec lui. Après, j'ai fait un film allemand, j'ai fait un film anglais, j'ai fait un film iranien. C'est-à-dire que, oui, c'est une manière d'explorer... je sais pas, parce qu'en fait, un film, ça reste un film, un réalisateur, mais tout d'un coup, de jouer dans des langues différentes... Et finalement, je suis une actrice comme une autre et je peux apprendre un peu ta langue et venir vers toi. Enfin, je trouve ça important, S'il y avait un message politique, ce serait celui-là, quoi.
Je rappelle, Bérénice Bejo, que nous sommes devant la Maison de l'Amérique latine à Paris. C'est l'un des endroits qui résonne en vous comme une Madeleine de Proust. Avant de conclure cet entretien, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'il reste d'argentin en vous ?
Bah, je suis Bruno Tache de Rousseur, déjà. Ceci dit, vous êtes Bruno Tache de Rousseur. Oui, je pense qu'il me reste... j'ai tellement de choses d'Argentine. D'abord, l'amour de ce pays, ma famille, parce que j'ai mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins. Et puis, le soleil, l'amour de la famille, l'amour des voyages, puisque j'ai toujours envie de voyager. Certainement, quand on quitte un pays comme ça, on n'a pas peur non plus de voyager. Moi, j'aime beaucoup voyager, aller vers l'inconnu. la langue aussi que je transmets à mes enfants, qui me permet de voyager, parce qu'entre l'espagnol, l'anglais, le français, bon, le français, eh ben, on voyage un peu partout, à part en Asie. Voilà, et puis le barbecue, le chimichurri. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le tango, Astor Piazzolla. Marquez, la littérature, enfin, j'ai plein de choses, la poésie. Oh, je crois que j'ai beaucoup de choses d'Argentin.
Merci beaucoup, Bérénice Béjot.
Il n'y a pas de quoi.
Voilà, Bérénice Béjot, à l'affiche du film Coupé. C'était La rencontre de Naïma Benchemann.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
6h47, le fil info de ce samedi matin, Clément Gouise.
On connaît le casting du nouveau gouvernement du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Il a été dévoilé hier après-midi. 13 femmes et 14 hommes. Exit Jean-Michel Blanquer, Jean-Yves Le Drian, Florence Parly, Marlène Schiappa ou encore Julien Denormandie, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Clément Beaune conservent eux leur portefeuille. Parmi les nouvelles têtes, on retrouve Pap Ndiaye à l'éducation nationale ou encore Rima Abdul-Malak à la culture. Pénurie de soignants aux urgences. Conséquence, 120 services sont contraints à limiter leur activité ou s'y préparer avant l'été, annonce l'association SAMU Urgences de France. 14 des 32 plus importants hôpitaux français figurent sur la liste des hôpitaux confrontés à des fermetures de certaines activités. Un premier cas de variole du singe en France, il a été détecté en Île-de-France, annonce le ministère de la Santé. Il s'agit d'un homme de 29 ans, il a été pris en charge et isolé à son domicile. Il n'avait pas voyagé dans un pays où circule le virus. L'OMS estime que les cas pourraient s'accélérer à l'approche de l'été en Europe. Et puis restera, restera pas, le feuilleton Mbappé doit prendre fin ce week-end. Le champion du monde doit annoncer où il jouera la saison prochaine. Deux options, une prolongation au PSG ou un départ au Real Madrid.
Merci Clément. Prochain journal à 7h, on va revenir sur ce remaniement bien sûr, et notamment gros plan sur la nouvelle ministre de la Santé. Et puis on parlera tennis également, Roland Garros, ça commence demain. Ce sera juste après notre balade du samedi, c'est dans un instant avec Vanessa et Marion, direction Nice et l'île d'Oléron ce matin. On va chez vous, on parle de vous, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
La balade du samedi avec Vanessa Zah et Marion Sauveur, bonjour à vous deux.
Bonjour, bonjour Thierry.
Alors Vanessa, on va partir dans le sud et on pose nos valises ce matin à Nice pour participer aux fêtes de mai.
Fêtes qui se clôturent demain avec une belle programmation, vous allez voir. Alors Thierry, déjà, est-ce que vous savez ce que sont les fêtes de mai?
Non, pas du tout.
Alors en fait, c'est une tradition qui remonte à l'Antiquité, ouais. Du temps des Romains, qu'on a retrouvée un peu plus tard au 5e siècle chez les Francs sous la forme des rosières. Ces femmes qui étaient élues pour leur beauté, leur prestance, hein, vous voyez, c'est un peu Marion et moi.
En c'est gros. Vrai, c'est vrai. C'est
et
vrai.
Puis qu'on retrouve au début du 20e pour les célébrations de Nice. Alors là, on érigeait un mât dans les jardins donc de Cimiez, sur les hauteurs de la ville. Mmh. Et on dansait, on faisait la fête. Cette tradition, elle a repris vie depuis les années 70. Et donc, c'est une manière de fêter le printemps, mais surtout l'identité niçoise qui est très forte. Donc, le chant, la danse, la langue, la gastronomie aussi. Voilà, c'est un moment de rassemblement pour les Niçois et les non-Niçois. Et en plus, c'est gratuit. Donc,
Ah, c'est bien, mais elle se déroule où alors ces fêtes de mai demain?
Et bien alors, juste à côté donc, du site romain de Cimiez, dans les jardins qui sont disposés, vous savez, autour du musée Matisse. Mmh. Il y a trois espaces. Il y a une grande scène pour les artistes avec une grande esplanade autour du mât, justement, sur laquelle vous allez pouvoir participer, les jardins, et puis une petite scène qui accueille des spectacles pour les plus jeunes. Donc, c'est demain, c'est le dernier jour dans les jardins de Cimiez, et il va y avoir donc des animations musicales, traditionnelles mais aussi contemporaines, des danses folkloriques, et puis la parade de la Reine des Mets, évidemment, et puis alors des ballettes.
C'est quoi les ballettes?
Alors ça, c'est Jean-Luc Cagliolo, qui travaille entre autres sur l'identité niçoise et culturelle à la mairie, qui va vous le dire.
Un ballet, ici, c'est un bal populaire, mais un bal populaire sur base de musique locale, niçoise, piémontaise, ligure. C'est-à-dire que nous avons des pas de danse spécifiques qui permettent de faire ce bal populaire pour que tout le monde puisse participer et que tout le monde puisse apprendre très facilement, très rapidement.
Parfait Vanessa, pourquoi il y a autant d'identités différentes?
En fait c'est dû aux trois périodes de l'histoire que Nice a vécu, petit rappel.
D'abord une période avant 1388 au cours de laquelle Nice était partie de la Provence, puis entre 1388 et 1860 qui est une période savoyarde, nous appartenions à la maison de Savoie qui est ensuite devenue le royaume de Piémont-Sardaigne, et enfin quand Nice a été rattachée en 1860 à la France.
C'est une triple identité qu'on retrouve dans les chants, mais les costumes, allez voir, c'est superbe. Et la langue, évidemment, aussi.
On apprend plein de choses. Et qui dit tradition niçoise, dit bien sûr gastronomie niçoise. On va pouvoir également déguster des spécialités typiques.
Alors oui, alors comme demain on parlera français et niçois, Jean-Luc va vous mettre rapidement l'eau à la bouche, mais dans sa langue, ouais. Puisqu'il est aussi professeur de niçois.
Perakel, Luc et Vendran, un lui jardin des simies per la festa d'Aimai, pourrais vesper les cas, embe des pambagnates, des pissaladières, des socs, tout y a quel lui plate et qui fend l'identité nissarde.
Ah. Bah c'est bon, vous les avez retenus quand même.
Pambagna, hein. Pissaladière, j'ai entendu.
Bah c'est parfait.
Bien compris.
Voilà.
D'accord,
bon, ça nous
parfait.
A donné l'eau à la bouche. Donc à vous, Thierry, de prendre l'avion demain matin pour la matinale.
Je pars. Bon. Me remplacer. Je suis parti, je suis à Nice demain. Je peux dormir demain soir où quelques adresses.
Alors, il y a Albert Ier qui est un hôtel historique des années 30, face à la baie des Anges. Et puis, il y a un petit hôtel que moi j'aime bien qui est juste derrière la promenade des Anglais, le Deck Hotel. C'est un peu un beach club. Mmh. Et puis, c'est bon marché puisqu'on est à 95 euros la nuit.
Parfait. Merci Vanessa. Marion Sauveur, on prend la direction avec vous de la Charente. Maritime.
Et l'île d'Oléron pour aller cueillir une plante dont on déguste le bourgeon de fleurs, c'est l'artichaut. Mmh. Il reste aujourd'hui un seul producteur d'artichaut sur l'île, c'est Christophe Pougnot. Alors qu'il y a un siècle, la culture y était très répandue et tellement qu'une rue porte le nom de cette plante dont on se régale à quelques mètres de ses exploitations. Alors l'artichaut n'est pas originaire de l'ouest de la France, il nous viendrait du bassin méditerranéen. Ouais. Dans l'Antiquité, les Égyptiens le connaissaient bien pour ses qualités aphrodisiaques. Mmh. Et on devrait d'ailleurs son introduction en France à Catherine de Médicis.
Et il existe plusieurs variétés alors ?
Oui, dont deux principales. Hein. Le violet de Provence, qu'on trouve aussi sous le nom de poivrade. Vous savez, c'est ce petit artichaut violet. Et le camus, le gros artichaut vert bien charnu et aussi le plus consommé en France. Mmh. Sur l'île d'Oléron, Christophe Pougnot ne cultive que le camus. Il le fait en respectant les traditions de l'île en agriculture raisonnée.
Je ne traite pas. Je ne fais rien. À part lui mettre des algues qui s'échouent sur la plage. Et ça lui sert d'engrais, en fait. On les épand après sur les artichauts et après c'est tout ce que je fais moi. Je ne fais pas de traitement moi parce que bah, je pense que l'air salin protège un peu des maladies. Quoi. La mer est à 100 mètres, 150 mètres peut-être. C'est une culture assez exigeante. Quoi. J'ai pas d'outils, de matériel pour le faire donc on fait tout à la main. Il a besoin de beaucoup d'eau. Ça c'est son inconvénient. Et nous on est obligé d'irriguer sur la pointe. On voit les nuages passer de chaque côté, mais pas nous.
Et oui, aucune machine ne remplace la main de l'homme hein, pour la culture de l'artichaut, que ce soit pour l'entretien de la plante ou sa culture en ce moment.
Alors, prenez un papier, un stylo, comment on le cuisine cet artichaut
alors Christophe Pougnot mange ses fonds d'artichaut crus à la croque au sel, comme ça. Alors, pour pouvoir faire comme lui, il faut des artichauts bien sûr extra frais. Mmh. L'idéal, c'est d'aller directement dans sa ferme, les légumes du phare de Chassiron. Il les vend 2 euros pièce. Ouais. Moi, je vous propose de cuisiner ces artichauts au barbecue. Ça change un petit peu.
On prend quoi que les
uniquement
fonds
les fonds, hein, bien sûr. Ouais. Donc on va commencer par couper la queue d'un coup sec, hein, à la main, sans couteau. On enlève ensuite 2 rangs de feuilles à la main. Mmh. Et puis après on prend le couteau, on coupe la base des feuilles jusqu'à retirer le foin. Quand il vous reste que vos fonds d'artichaut, il faut bien les citronner pour qu'ils ne noircissent pas. Ça va très vite. Hein. Et ensuite on les plonge dans une petite marinade. Alors on va faire un mélange d'huile d'olive, d'ail, de romarin. On les laisse une bonne heure avant d'aller sur le barbecue. On les fait griller pour savoir quand ils sont cuits. On utilise la pointe d'un couteau. C'est tout simple.
C'est bien ça.
Et puis, vous pouvez même les servir avec un petit condiment de tomates confites, ail, piment et huile d'olive. Vous mixez le tout, vous verrez. C'est très simple.
Ah, écoutez, c'est parfait. Merci Marion. On retrouve votre recette sur europe1.fr et le podcast des balades sous le nom Week-end Évasion. À demain, mesdemoiselles.
À demain.
Et le journal à suivre dans un instant. Et merci d'écouter Europe 1. Samedi 21 mai, il est 7h.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Vous savez quoi ? On est heureux de vous savoir avec nous sur Europe 1. Le journal est présenté par Johan Tritz. Bonjour Johan.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Le casting 2022 est désormais connu. 27 ministres nommés hier par Elisabeth Borne. Mais quelle histoire derrière ce nouveau gouvernement, les informations dans ce journal.
Et à l'intérieur, 2 ministères dédiés à l'écologie, symbole fort. Europe 1 aussi se soucie de l'écologie. On a été à dénicher quelques idées pour l'avenir de la planète. On ira au salon Change Now avec Arthur Perra tout à l'heure.
Et puis, autre événement, Roland-Garros bien sûr.
Oui, Roland-Garros, le tournoi débute demain. Ce sera le dernier pour 2 grands joueurs français, Joe Wilfried Tsonga et Gilles Simon.
Dans la prochaine demi-heure, notre invité à 7h10, c'est Bertrand Piccard, président de la fondation Solar Impulse. On lui demandera ses attentes après la nomination du nouveau gouvernement. Et puis, Mathieu Alterman nous parlera des extraterrestres. Mais d'abord, la tendance météo avec vous, Valérie Darmon sur Terre.
Hein. Effectivement, avec des maximales de saison au nord jusqu'à 35 en Nouvelle-Aquitaine, sous un ciel bleu partout, sauf sur les reliefs orageux de l'Est. C'est un petit peu nuageux à Dijon aussi ce matin, plus ensoleillé cet après-midi pour la grande braderie de la ville dont nous parle Karine sur Facebook. Et il fera 22 degrés aux heures les plus chaudes.
Météo complète dans 7 minutes.
Europe 1.
Après un mois d'attente, l'Élysée est enfin sortie de sa torpeur.
Oui, c'est sur le perron du palais qu'Alexis Colère, le secrétaire général, a dévoilé la liste des 27 ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne. Des habitués, des petits nouveaux, beaucoup de droite, un peu de gauche. Les enseignements du casting 2022 avec Louis Dragnel.
Premier enseignement, c'est un gouvernement de continuité avec un trio de têtes qui ne bouge pas. Bruno Le Maire à Bercy, Gérald Darmanin à l'intérieur, désormais numéro 3 du gouvernement, et Éric Dupond-Moretti qui reste à la justice. Sébastien Lecornu est promu ministre des Armées et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, réalise sans doute la plus belle performance en étant désormais ministre des Comptes publics. Continuité donc, et penchant à gauche également, avec notamment la nomination de Pap Ndiaye à l'éducation nationale, une sorte d'anti-Blanquer. Autre élément, la rétrogradation du ministre de la Santé Olivier Véran, dont l'image associée au Covid le conduit désormais à la fonction de ministre délégué aux relations avec le Parlement. Enfin, mis à part les entrées attendues de Damien Abad, ministre des Solidarités, et Christophe Béchu aux collectivités territoriales, pas vraiment de prise de guerre à droite. D'ailleurs, Catherine Vautrin, qui a failli devenir Premier ministre, et le poids lourd Éric Woerth ne figure pas sur la liste. Pour terminer, au Quai d'Orsay, c'est une des plus grandes diplomates françaises, Catherine Colonna, qui succède à Jean-Yves Le Drian, ancienne porte-parole de Jacques Chirac à l'Élysée, celle qui est aujourd'hui ambassadrice de France à Londres, s'apprête donc à traverser la Manche pour prendre ses fonctions.
Louis Dragnel pour Europe 1, premier conseil des ministres lundi avec un thème principal, le pouvoir d'achat. L'une des principales préoccupations des Français qui, selon un sondage du Parisien, souhaiterait être plus écouté par le gouvernement.
Olivier Véran remplacé donc, on vient de l'entendre, par Brigitte Bourguignon à la santé.
Oui, après deux années marquées par le Covid, le virage est déjà effectué, mais il va y avoir désormais de nombreux autres combats à mener, selon le docteur Chiche, anesthésiste et créateur du collectif Santé en danger.
Il manque de monde partout. On a du mal à sécuriser les effectifs existants. Donc il va falloir booster l'attractivité, proposer des choses aux nouveaux professionnels pour leur donner envie de venir à l'hôpital et de rester. Tout le monde est d'accord. Donc en fait, Brigitte Bourguignon, elle va être jugée sur sa capacité à ne pas être dans le déni de la situation et par contre à agir pour faire face à cette réalité qui aujourd'hui est très inquiétante pour les concitoyens.
Propos recueillis par Guillaume Dominguez.
La santé, donc thème majeur bien sûr, mais également l'écologie.
Oui, deux ministères lui sont pleinement dédiés, la transition écologique et énergétique. Il y a un événement en ce moment qui peut leur donner quelques idées, d'ailleurs quelques pistes. Ça s'appelle Change Now et c'est jusqu'à aujourd'hui un salon qui met en avant les innovations pour les grands défis de demain. Arthur Perra est allé y promener son micro.
Sous l'immense sculpture en forme de globe terrestre, le catamaran miniature d'Yves Parlier attire l'œil des curieux. L'ancien navigateur propose d'utiliser une voile de kitesurf pour réduire les émissions de CO2.
Un bateau de 350 mètres de long qui serait tracté par une aile de 1600 mètres carrés va pouvoir, dans les meilleures conditions, marcher peut-être à 10 nœuds avec le kite seul, lui permettre d'économiser 20% en moyenne pour une vitesse de croisière qui serait de 16 nœuds.
Quelques mètres plus loin, sur le stand de Jim Pasquet, un siège en plastique blanc entièrement réalisé à partir de bouchons de bouteilles, broyées puis chauffées, ils seront transformés en sièges pour la future piscine des JO 2024.
Ce sont des sièges qui vont être à la fois recyclés, donc à partir de déchets collectés en Île-de-France, et recyclables si en fin de vie, imaginons dans 20 ans, on doit récupérer ces éléments-là, on peut les démonter, les rebroyer et refaire exactement le même procédé.
Par le biais d'ateliers, les enfants peuvent aussi apprendre à bien faire le tri, les adultes peuvent aussi y participer pour une piqûre de rappel.
Un reportage d'Arthur Pereira pour Europe 1.
Et je vous rappelle que Bertrand Piccard sera avec nous dans 6 minutes maintenant. Direction l'Ukraine à présent avec la situation à Mariupol en Ukraine où les derniers soldats se sont rendus.
Des semaines qu'ils résistent dans les tunnels de l'acierie d'Azovstal, le commandement ukrainien a finalement demandé de mettre un terme au combat pour sauver des vies. Des centaines de militaires ont été faits prisonniers par l'armée russe qui a déclaré avoir libéré la ville. Moscou qui intensifie ses bombardements sur le Donbass.
Le sport à présent, c'est un feuilleton qui nous tient en haleine depuis trop longtemps. Est-ce qu'on va enfin connaître le choix de Kylian Mbappé?
Le dénouement est attendu en tout cas aujourd'hui. Alors partira pas du PSG. Suspense total. S'il est espéré au Real Madrid en Espagne, la balance pencherait désormais vers une prolongation. L'annonce pourrait arriver après la dernière journée de Ligue 1 qui a lieu ce soir.
Bon, la fin du suspense Mbappé et puis le début de Roland-Garros, bien sûr.
Premier coup de raquette demain. 9 Français sont sur le pont pour le premier tour, dont Richard Gasquet, l'un des 4 mousquetaires qui va dire adieu à 2 de ses camarades, Joe Wilfried Tsonga et Gilles Simon. Ce sera leur dernier tournoi porte d'Auteuil avant la retraite sportive. Axel B.
Joe et Gilou, leur diminutif, se connaissent depuis l'enfance. Alors forcément, quand on interroge Joe Wilfried Tsonga sur ses 25 ans d'amitié avec Gilles Simon, les anecdotes sont nombreuses.
Il fait partie de mon histoire tennistique. On a partagé énormément de choses ensemble. Depuis qu'on est tout jeune, on a fréquenté les mêmes centres. On allait à l'école ensemble. On jouait au tennis ensemble. On a rigolé ensemble. On se racontait nos premières petites amies ensemble. On se racontait les choses. Et c'est une très belle histoire.
Mais voici Joe et Gilou, tous les deux 37 ans, rattrapés par le temps. Gilles Simon ne veut pas être nostalgique.
Pas de regrets, pas de pincement au cœur, juste l'impression d'avoir fait tout ce que j'ai pu aussi longtemps que possible et que malheureusement ça devient trop difficile et qu'il faut s'arrêter là.
Tsonga, le corps trop souvent blessé, arrêtera sa carrière à Roland-Garros. Simon veut pousser jusqu'à la fin de la saison. Bientôt, il ne restera plus que deux des quatre mousquetaires, Richard Gasquet et Gaël Monfils. Mais pour combien de temps encore ?
Début de Roland-Garros demain donc avec Europe 1, radio officielle du tournoi.
Voilà, et puis on se mettra demain à l'heure de la porte d'Auteuil, demain dans cette matinale dès 6h. Merci Johan, à tout à l'heure. La météo, Valérie Darmon, il va faire beau sur Roland-Garros, ailleurs le programme du week-end.
Eh bien beau partout, l'anticyclone revient sur le nord du pays, de l'air très chaud remonte à nouveau sur nos régions du sud, le soleil revient partout, les températures seront très contrastées entre le nord et le sud de la France, sous un grand ciel bleu, de nouveau bleu donc, excepté le long de la Manche un petit peu voilée. En Aquitaine, la barre des 35 degrés sera approchée cet après-midi et de nouveaux records pourraient être atteints d'ici ce soir.
À tout à l'heure Valérie, merci beaucoup. À suivre, l'interview actuelle. Deux techniciennes pour assurer l'écologie, un dossier rattaché directement à Matignon. Mais qu'en pense l'explorateur Bertrand Piccard ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Et vite ! Le patron de la fondation Solar Impulse est avec nous dans un instant. Ça se passe sur Europe 1. On revient, à tout de suite.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'interview actu de ce samedi matin, 7h11. Bonjour Bertrand Piccard.
Bonjour.
Explorateur bien sûr à la tête de la fondation Solar Impulse. On est ravis de vous entendre ce matin. Vous êtes le Suisse peut-être le plus en contact, on va dire, avec Emmanuel Macron, notamment sur les questions d'écologie. Vous parlez souvent, notamment par SMS, je crois, avec le président.
Oui, c'est vrai que nous échangeons. J'essaye vraiment de lui montrer à quel point il y a des solutions. Il y a beaucoup de solutions, même françaises, qui permettent de créer de l'emploi, qui permettent de protéger l'environnement tout en développant l'économie. Et c'est ça que j'essaye de pousser. C'est important parce que ça permet aussi de sortir du clivage des partis.
Bertrand Piccard, cette planification écologique voulue par le président, rattachée à Matignon, on va en reparler, ça arrive, cette proposition, entre les deux tours de la présidentielle. Est-ce que le président est convaincu par l'urgence ou est-ce que cela relève de l'opportunisme, on va dire ?
Alors pour moi, il est convaincu et ce n'est pas de l'opportunisme. Mais il faut voir que la politique française est tellement clivée que si le président, avant le premier tour, avait parlé d'écologie, il aurait donné des voix à Yannick Jadot. S'il avait parlé de sécurité, il aurait donné des voix à Marine Le Pen. Et par conséquent, il a attendu d'être au deuxième tour pour vraiment parler de sa conviction écologique. Et il a très bien compris qu'il n'y a plus du tout d'opposition entre écologie et économie.
Mais tout de même, le bilan de ce premier quinquennat n'est pas totalement vert, on va dire.
Non. Et pour tout dire, le bilan est très décevant,
voilà,
sur le premier quinquennat, c'est ouais, sûr. Je pense que la crise des gilets jaunes, la crise du Covid, la guerre en Ukraine, etc., on fait diversion et c'est dommage. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas avoir de l'espoir pour le futur. Et je pense que l'espoir vient du fait que maintenant, la première ministre est une ancienne ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. C'est ça qu'il faut voir, c'est que maintenant, au-dessus de l'économie, au-dessus de l'agriculture, au-dessus de tous les autres ministères, eh bien, il y a quelqu'un qui sait comment parler d'environnement et qui sait comment motiver autour de l'écologie. Et ça, c'est la grande nouveauté. Et je me réjouis vraiment de voir ce gouvernement à l'œuvre.
Alors justement, qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça va permettre que le dossier soit géré depuis Matignon par Elisabeth Borne ?
Ça va permettre des arbitrages en faveur de l'environnement. Parce que jusqu'à maintenant, eh ben, les arbitrages n'étaient pas tellement en faveur de l'environnement. Et c'est pour ça que Nicolas Hulot a démissionné en disant que finalement, il était un peu un alibi, mais qu'il n'y avait pas de vraie volonté à long terme et de direction donnée au gouvernement. Et ben maintenant, Elisabeth Borne, que je connais bien, hein, on a fait des choses ensemble. Mmh. Je trouve que c'est quelqu'un qui connaît bien ses dossiers, quelqu'un qui est en fait beaucoup plus sympathique que ce que son allure parfois un peu austère laisse penser. et elle sera à une très bonne place pour arbitrer en faveur de l'environnement.
Mais que je comprenne bien, ça veut dire que l'arbitrage, c'est souvent Bercy contre l'écologie, donc l'argent contre l'écologie. Ça permet de court-circuiter Bercy ?
Non, ça permet de réunir Bercy et l'écologie. C'est d'ailleurs la toute première discussion que j'ai eue avec Elisabeth Borne quand on s'est rencontrés, c'était sur la rentabilité économique et industrielle de l'écologie. Et celle en est totalement convaincue, donc elle ne va pas faire une écologie clivante, elle ne va pas faire une écologie sacrificielle, elle va faire une écologie fédératrice entre les besoins de l'environnement, les besoins de l'économie et le pouvoir d'achat, parce que finalement, c'est le pouvoir d'achat qui en profite, parce que si on est plus efficient en énergie, donc qu'on consomme moins d'énergie, qu'on gaspille moins de ressources, qu'on gaspille moins de nourriture, qu'on est plus efficient partout, eh ben, il reste quand même plus pour les fins de mois dans le pouvoir d'achat. Donc l'écologie est la meilleure manière de stimuler le pouvoir d'achat.
Mais avant que ça soit rentable, il faut investir et ça coûte beaucoup d'argent l'écologie, avant que ça ramène de l'argent.
Alors ce n'est pas un coût. Parce que le coût, c'est quand vous dépensez de l'argent que vous perdez. Mmh. Là, c'est effectivement, comme vous l'avez bien dit, un investissement. Et l'investissement, c'est ce qui permet d'obtenir plus d'argent encore après. Après ça, c'est des opportunités industrielles. Quand vous mettez des pompes à chaleur dans des bâtiments, c'est vrai qu'il faut investir, mais dès le lendemain, c'est des charges réduites pour les habitants de cet immeuble. Si vous récupérez de la chaleur perdue dans les usines, eh ben, c'est moins d'argent perdu en facteurs énergétiques. Si vous avez des systèmes qui permettent de trier les déchets, eh ben, c'est moins de déchets dans des décharges publiques. C'est, tout ça, c'est des gains. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on sort de cette écologie sacrificielle et pénalisante pour entrer dans une écologie qui promeut une croissance qualitative, eh ben, on va créer de l'emploi, on va faire du développement économique en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Donc en fait, on peut moderniser toutes nos infrastructures, tous nos systèmes. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et si on vit de manière plus moderne et plus efficiente, bah, ça coûte beaucoup moins cher.
L'explorateur Bertrand Piccard avec nous ce matin sur Europe 1. On va voir bien sûr les actes. Là, ce sont des paroles. On verra les actes, notamment l'argent. Cette transition écologique, ce sera dans le projet de loi de finances 2023 qui sera présenté en septembre. Le président a proposé 10 milliards d'euros. Est-ce que c'est réalisable à l'heure où la dette explose ?
Alors, ce qui est mauvais pour une dette nationale, c'est de l'argent qui est dépensé en trop pour les dépenses courantes, pour tout ce qui est habituel. Par contre, si c'est de l'argent qui est utilisé pour investir, pour rendre le pays plus efficient, plus moderne, fonctionnant mieux, avoir plus d'emplois, où chaque emploi va encore payer des impôts, et finalement c'est toute une machine économique qui peut devenir vertueuse puisqu'elle est entièrement dirigée ou elle doit être entièrement dirigée vers la protection de l'environnement et tout ce que les nouvelles solutions permettent de faire. Donc ça c'est pour l'idéal. Maintenant, on va voir, j'espère que le gouvernement le fera, j'espère qu'Emmanuel Macron tiendra sa promesse. Nous, en tout cas, avec la Fondation Solar Impulse, on est derrière, on est vigilant, on n'est pas complaisant du tout. Et s'il y a des trucs qu'on n'aime pas, je me permettrais de continuer à les lui dire.
Justement, Bertrand Piccard, des solutions, vous en proposez dans votre livre « Un réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques » chez Stock. Vous participiez hier à Change Now à Paris, hein, c'est jusqu'à ce soir d'ailleurs, avec tous les acteurs de l'écologie qui mettent leurs idées sur la table. Vous dites quoi ce matin à Elisabeth Borne, à Agnès Pannier-Runacher, la nouvelle ministre de la Transition énergétique, à Amélie Montchalin, ministre de la Planification écologique? Quelles sont les premières mesures vertes à prendre qui seraient importantes?
Les premières mesures importantes à faire, c'est moderniser le cadre légal, parce que le cadre légal aujourd'hui permet encore de polluer, de gaspiller, d'être inefficient et d'utiliser des vieux systèmes polluants. Donc ce qu'il faut, c'est que le cadre légal maintenant oblige à être moderne, à être efficient. Donc il faut mettre des normes, des standards qui correspondent à ce que les technologies d'aujourd'hui peuvent permettre d'atteindre et pas ce qui était possible seulement il y a 10 ou 20 ans. C'est comme ça qu'on va tirer toutes ces start-up, toutes ces nouvelles solutions sur le marché. C'est très très important. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, si on avait toutes ces solutions sur le marché, utilisées par tout le monde, on aurait zéro déchet dans les décharges publiques, zéro déchet dans les océans, parce que les déchets pourraient être utilisés comme ressources, on aurait une mobilité décarbonée, on aurait des constructions décarbonées, une possibilité de vivre dans des bâtiments décarbonés, on aurait des énergies renouvelables et on aurait une gestion de l'eau qui serait écologique, avec du recyclage, purification, réutilisation, séparation avec les eaux grises, etc. Donc tout ça, c'est la ville de demain, le monde de demain, mais il serait possible tout de suite si on utilisait les solutions pour ça. Donc il faut que le gouvernement arrive le plus vite possible à l'utilisation de ces solutions, parce que le temps presse énormément.
L'explorateur qui, on l'a bien compris, va rester très vigilant à la tête de la Fondation Solar Impulse, Bertrand Piccard, ce matin sur Europe 1. Grand merci à vous.
Avec plaisir.
Bon samedi, au revoir, merci.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
7h19, samedi 21 mai, l'Info Express, Yoann Tritz.
Des petits nouveaux, mais aussi de grands habitués. On connaît depuis hier la composition du gouvernement. Gérald Darmanin reste ministre de l'Intérieur, Bruno Le Maire à l'économie ou Éric Dupond-Moretti à la justice. Ils sont 14 sur 27 à avoir gardé une place auprès d'Elisabeth Borne. Toutes les informations dans le prochain journal. Après la pandémie de Covid, s'apprête-t-on à vivre une nouvelle crise sanitaire? Un Français a été infecté par la variole du singe, maladie rare qui normalement est présente en Afrique. Plusieurs pays dans le monde sont touchés. L'OMS s'inquiète. L'Allemagne, qui a été soufflée par une tornade, la ville de Paderborn dans l'ouest du pays a été lourdement touchée, faisant près de 40 blessés, dont 10 graves. Joe Biden en déplacement en Corée du Sud. Le président américain est en visite à Séoul, dans la capitale. Un déplacement après les derniers essais nucléaires de Pyongyang. De la provocation, dit Washington. Les Australiens dans les bureaux de vote ce samedi. Les élections législatives viennent de débuter. Le Premier ministre Scott Morrison brigue un nouveau mandat de 3 ans. Et puis le sport avec la Ligue 1 ce soir et la 38e et dernière journée. Qui va descendre? Qui va aller en Ligue des Champions? Beaucoup d'enjeux ce soir.
Merci Johan, restez avec nous dans un instant. Allez, on se détend avec Mathieu Alterman, on va parler des extraterrestres.
Téléphone maison.
Voilà, tout de suite, bon réveil sur Europe 1.
Europe Matin Weekend.
Thierry Dagiral.
Il est à cette matinale ce que E.T. est au petit Elliot, un personnage étrange et attachant. Voici Mathieu Alterman. Bonjour Mathieu.
Bonjour Thierry.
Alors ce matin Mathieu, vous nous dites que les extraterrestres n'existent que dans la pop culture.
Ouais. Oui Thierry, jusqu'à preuve du contraire, les extraterrestres n'existent pas et sont cantonnés à vivre dans les livres, au cinéma ou dans les chansons. Alors la première rencontre mémorable entre les terriens et les extraterrestres, c'est bien entendu Orson Welles qui la provoque en 1938 à la radio, en jouant si bien la guerre des mondes de H.G. Wells que les Américains à l'écoute croient vraiment une invasion venue de très loin. Alors Thierry, les extraterrestres, il y a clairement deux camps, hein, l'Américain et le Français.
Oui, c'est un sujet que les Américains semblent avoir mieux traité finalement et avec le plus grand sérieux. Quoi.
Bah, en effet, il s'agissait pendant la guerre froide d'une parabole avec le monde soviétique. Un premier grand film de science-fiction, Le jour où la Terre s'arrêta en 1951, nous montre la peur de l'Amérique face à des extraterrestres somme toute pacifiques. En 1979, Alien de Ridley Scott présente une créature très méchante, vilaine et qui terrifie les spectateurs. 1982, alors changement de ton avec Steven Spielberg. Et oui. Après Rencontre du troisième type, le pays de l'oncle Sam fait maintenant appel à l'armée pour capturer le gentil E.T. qui ne pense qu'à rentrer à la maison parce que faire du vélo-cross avec des adolescents dans la campagne américaine, ça l'a tintiné après quelques jours. En 1996, Independence Day nous fait frissonner car les aliens n'y sont pas franchement câlins. Et Mars Attack de Tim Burton la même année oscille avec merveille entre horreur et comédie rythmée par la chanson de Slim Whiteman qui fait exploser tous les vilains martiens. Autre tube magique, ouais. Nous évoquant la victoire des terriens sur les méchants venus d'ailleurs. Will Smith et Men in Black, ouf, on a eu chaud.
Alors en revanche, en France, rien à voir. Chez nous, c'est plutôt la grosse déconne. Hein.
Oui, chez nous, les aliens ne sont pas particulièrement agressifs ou alors très très nuls, comme dans Les Gendarmes et les Extraterrestres, un chef-d'œuvre du cinéma n'importe quoi, où ces derniers fondent dans l'eau. Alors parfois, les E.T. de passage dans nos contrées ont d'autres objectifs que détruire la planète, hein, comme celui de...
Ah oui.
Bah comme la celui de manger de la soupe aux choux. Bah oui, ils en ont même pas chez eux, les andouilles. Hein. Ni des pâtes d'ailleurs, hein, puisque les petits hommes verts seront les égéries lustucrues en ces glorieuses années 80. En 2022, dans l'excellente série OVNI sur Canal+, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment menaçants. Et même nous, cher Thierry, hein, nous qui sommes un peu les Brock et Schnock d'Europe 1, hein, nous faisons plus rire que peur hein, quand même. Hein. Bon, quant à la présence du troisième type dans la chanson française, là aussi on rigole. Henri Salvador rencontre les martiens.
Oui, je suis un vrai martien et je viens sur la...
Et Ringo, lui, téléphone à un ovni.
Oui, il n'y a pas de doute, c'est de la bonne. Alors tout compte fait, un méchant ou gentil, vert ou translucide, si les extraterrestres habitent la pop culture depuis des décennies pour le bonheur des grands et des petits, terminons par ces mots de Pierre Dac. Deux points, ouvrez les guillemets. La meilleure preuve qu'il existe une forme d'intelligence extraterrestre, c'est qu'elle n'a pas essayé de nous contacter. Et comme chantait David Bowie, « Loving the Alien ».
Bowie et Mathieu Alterman, à demain Mathieu.
À demain.
Allez, dans 3 minutes, le journal de 7h30, on reviendra sur le nouveau ministre de l'Éducation, déjà critiqué, Pape Ndiaye. On parlera foot avec Marseille qui joue gros ce soir. Et puis Indochine, 40 ans de carrière et un immense show ce soir au Stade de France. A tout de suite, merci d'être avec nous sur Europe 1.
Découvrez Chartres en Lumière, le plus grand événement au monde de mise en valeur du patrimoine par la lumière. Tous les soirs, de la tombée de la nuit à 1h du matin, au fil d'une balade nocturne dans le cœur historique de Chartres, admirez les spectacles de son et lumière où plus de 20 monuments s'illuminent et racontent leur histoire. Et c'est entièrement gratuit. Plus d'infos sur chartrenslumière.com.
Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis conseillère commerciale EDF à Tours pour les professionnels. Mes clients me demandent souvent comment ils peuvent contribuer à la transition énergétique. C'est pour ça que je leur conseille, quelle que soit la taille de leur entreprise, de souscrire à l'offre verte d'EDF, une électricité certifiée d'origine renouvelable. En plus, ils disposent de supports de communication pour valoriser leur engagement auprès de leurs clients. Pour en savoir plus, appelez-nous au 3022.
Certifié par des garanties d'origine délivrées par un organisme indépendant. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Partez à la découverte de la saga du Louvre avec le nouveau hors-série du Parisien. De la forteresse médiévale au plus grand musée du monde, plongé dans 8 siècles d'histoire au cœur de Paris. Des tableaux étonnants décryptés par les conservateurs du musée, aux merveilles cachées du jardin des Tuileries. La saga du Louvre, un hors-série exceptionnel du Parisien, en vente dans toute la France.
Gémeaux, le prêt à vivre.
Si vous êtes prêt à ce que votre enfant essaye sans bouder ce short trop mignon et prêt à le laisser choisir tout seul ce t-shirt que vous n'auriez jamais imaginé sur lui, à chacun ses goûts, hein, après tout. Alors vous êtes prêt à profiter de la nouvelle offre Gémeaux. Pour l'achat d'un bas enfant, profitez d'un haut offert, vraiment offert, hein. Et tout ça pour moins de 8 euros. Enfin une offre qui met d'accord les enfants et leurs parents.
Gémeaux, le prêt à vivre.
Offre valable du 18 mai au 7 juin sur une sélection de produits. Voir conditions en magasin et sur gémeaux.fr.
Faut-il voyager pour être heureux? Venez découvrir la nouvelle exposition événement de la Fondation Groupe EDF à Paris. Installations, peintures, vidéos, photographies, 32 artistes contemporains français et internationaux vous invitent à réfléchir sur votre conception du voyage. Réel, virtuel ou imaginaire. Réservez vos places gratuitement sur fondation.edf.com.
Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours.
Hé, hey, tu sais ce que c'est une tomate avec une cape?
C'est une super tomate.
Ok. Et tu sais ce que c'est que des tomates côtelées noires, jaunes ou rouges, origine France à 2,69€ le kilo?
Bah, ce sont des super tomates côtelées coup de cœur du primeur à prix Leclerc.
Ah, bah tu la connaissais aussi?
Bah évidemment, j'adore les salades de tomates.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Du 20 au 22 mai, catégorie 2, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et vous réagissez à l'actu, vous interpellez l'équipe, les chroniqueurs, c'est sur notre page Facebook Europe Matin Weekend. Il est 7h30 et le journal vous est présenté par Clément Guise. Bonjour Clément.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Le nouveau gouvernement du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, enfin dévoilé, 27 ministres, dont 13 nouveaux, parmi les nouvelles têtes, Pape Ndiaye ou encore Rima Abdul-Malak. On en parle en début de ce journal.
Un maintien au gouvernement qui interpelle celui d'Éric Dupond-Moretti qui conserve son poste de ministre de la Justice. Une véritable surprise pour l'ancien magistrat Georges Fenech.
Qui accompagnera le PSG en Ligue des Champions? Il ne reste plus que 2 places pour 3 clubs, Monaco, Marseille ou Rennes. Les précisions à la fin de ce journal.
Au sommaire de votre prochaine demi-heure à 7h40, la photo de Paris Match, elle est consacrée au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et puis à 8h moins le quart, Paris Style est sorti. Tous les samedis, vous le savez, nous irons à Cannes découvrir le programme du jour et les sorties ciné de la semaine en compagnie de Laurie Cholevin. Un bon livre avec Nicolas Carreau et enfin on vous fera découvrir le nouveau titre de Yannick Noah. Mais avant, la tendance météo avec vous Valérie Darmon.
Du ciel bleu partout ce samedi, sauf sur les reliefs de l'Est exposés aux orages et le long de la Manche au ciel un petit peu voilé comme ce matin, plus du tout cet après-midi au château de Cheverny où se tient le 3e festival du chapeau. Et on en aura besoin sur les châteaux de la Loire parce qu'il fera 26 cet après-midi à vos thermomètres.
Allez, la météo version longue, c'est dans 7 minutes.
Europe 1.
Le casting du nouveau gouvernement du second quinquennat d'Emmanuel Macron a été dévoilé hier après-midi.
Et exit Jean-Michel Blanquer, Jean-Yves Le Drian, Florence Parly, Marlène Schiappa, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Clément Beaune conservent eux leur portefeuille. Parmi les petits nouveaux, on retrouve Papendiaï à l'éducation nationale ou encore Rima Abdul-Malak à la culture. Inconnue du grand public, elle était jusqu'ici la conseillère culture et communication d'Emmanuel Macron. La passation de pouvoir a eu lieu hier soir rue de Valois avec Rosine Bachelot, Alexandre Chauveau.
Oui, passation pleine d'émotions pour Rima Abdul-Malak, nouvelle locataire des lieux, comme pour Roselyne Bachelot qui quitte la rue de Valois après y avoir passé 680 jours. Celle-ci a parlé près de 25 minutes pour souligner son action à la tête du ministère, marquée notamment par la mise en place du pass culture pour les jeunes, avant de transmettre le témoin.
Soutenir la culture et celles et ceux qui la font vivre dans notre pays, c'est une mission exaltante. Madame la ministre, chère Rima, je vous souhaite le meilleur. Vive la culture, vive la République, vive la France.
C'est un tel honneur de vous succéder. Nous avons l'une et l'autre des parcours très différents, mais nous partageons, je crois, la même curiosité, le même appétit insatiable d'art, de littérature, de musique, de théâtre qui a guidé toute notre vie.
Rima Abdul-Malak, 43 ans, franco-libanaise, a déjà une longue carrière dans le milieu. Issue du monde associatif, elle est aussi passée par la mairie de Paris à l'époque de Bertrand Delanoë, avant d'être attachée culturelle à l'ambassade de France à New York. Sa priorité au ministère, dit-elle, faire rayonner la culture française et encourager la pratique de la culture chez les jeunes.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et puis Éric Dupond-Moretti, lui, a été renouvelé à la justice.
Une décision qui fait grincer des dents. Le syndicat de la magistrature déplore son bilan au sein du gouvernement de Jean Castex. Et l'ancien magistrat Georges Fenech, lui, est étonné de le voir reconduit malgré sa mise en examen.
C'est un très mauvais message. C'est d'autant que le président de la République est quand même garant de l'indépendance de la justice. Or, le fait de maintenir un ministre en exercice dans ses fonctions alors qu'il est appelé à être jugé en matière pénale, c'est pris sans aucun doute par les magistrats comme une sorte de camouflet. Il va être jugé par des magistrats et il a, en tant que garde des Sceaux, la haute main toujours quelque part sur les nominations des magistrats. Et s'il est jugé par la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt, il sera jugé non seulement par des magistrats professionnels, mais également par 12 parlementaires, dont un grand nombre appartiendront bien entendu à la majorité présidentielle. Vous voyez donc le conflit d'intérêts absolument évident.
Des propos recueillis par Guillaume Dominguez.
Et puis Clément, sans surprise, l'opposition, elle, tire à boulet rouge sur ce gouvernement.
Pour Marine Le Pen, il symbolise l'incompétence et l'arrogance d'Emmanuel Macron. Pour Éric Zemmour, c'est le gouvernement dont Jean-Luc Mélenchon aurait rêvé. De son côté, le leader des Insoumis juge que l'on retrouve les principales figures de la maltraitance sociale et de l'irresponsabilité écologique. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, considère que cela augure de nouvelles déceptions dans la lutte pour enrayer le dérèglement climatique. Un premier cas de variole du singe en France. Il a été détecté en Île-de-France, annonce le ministère de la Santé. L'OMS estime que les cas pourraient s'accélérer à l'approche de l'été en Europe.
Les pays du G7 au chevet de l'Ukraine.
Près de 19 milliards d'euros vont être débloqués pour soutenir les finances de l'Ukraine, annonce faite hier à l'issue d'une réunion des ministres des Finances en Allemagne.
Et puis le sport avec la dernière journée de Ligue 1. Ce soir, le suspense reste entier concernant les places européennes.
Monaco, Marseille et Rennes vont batailler à distance. Objectif, décrocher la deuxième place et se qualifier directement pour la C1. Ils se tiennent en 3 points et forcément, il y aura un déçu. L'OM traverse actuellement une mauvaise passe. Le souvenir de la fin de saison 2018 ressurgit, Stéphane Burgat.
Le jour et la nuit, en quelques semaines, l'OM, rayonnant demi-finaliste de Coupe d'Europe, deuxième du championnat, pourrait tout perdre dans la dernière ligne droite. Les blessures, les contre-performances, bref, sale temps pour les supporters.
Pour tous les Marseillais, pour les joueurs et pour le staff et pour la bonne mère et pour tout ce qui va avec, il ne faudrait pas tout gâcher. Franchement, cette équipe, on ne sait plus. Avec Sampaoli, on peut tout faire et rien faire. Mais voilà, c'est l'OM, blanc et bleu. On va jouer l'Europe l'année prochaine. On va jouer la vraie Europe, la Champions League. Et là, je vous ai dit, j'embrasse tout le monde sur la bouche. Hein, c'est pas grave. Hein. On s'envoie en l'air, hein, je m'en fous. Hein.
D'autant que l'OM a vécu pareil scénario il y a 4 ans, mais pas de quoi perturber le milieu de terrain Matteo Guendouzi.
C'est vrai qu'on a été deuxième quand même
une très longue partie du championnat. Mais voilà, moi je suis assez confiant quand même. On mérite d'être là. Voilà, on est à domicile. Tout le monde est prêt pour le dernier match de la saison. Bien évidemment que l'objectif aujourd'hui, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc forcément, s'il y a un résultat négatif, il y aura de la déception pour tout le monde. Mais je crois en moi, je crois en notre équipe. Je sais qu'on va atteindre cet objectif.
Et attention, puisque en face, Strasbourg joue gros également avec l'objectif d'une place en Ligue Europa. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Allez, on termine avec l'événement culture du week-end, les 40 ans du groupe Indochine.
Nicolas Sirkis, membre fondateur, et ses musiciens seront ce soir au Stade de France. 40 ans après leur formation, ce groupe qui a cassé les codes de la scène musicale française reste très populaire auprès des Français, Zoé Palier.
10 mai 1981, François Mitterrand est élu président et ce soir-là, deux musiciens, la vingtaine à peine entamée, décident de s'associer. Le duo devenu Quatuor ringardise les groupes de rock de l'époque. Et dès l'été 1983, Nicolas Sirkis, le chanteur aux épis noirs de jais, fait danser toute la France sur l'aventurier. En 1985, album plus subversif avec le tube « Troisième sexe » et son refrain « Une fille au masculin, un garçon au féminin ». Le titre « Canary Bay » sur l'homosexualité féminine choque même la maison de disques qui refuse de le produire. Et le groupe affiche complet à chaque concert et écoule plus de 750 000 albums en un an. Après un passage à vide dans les années 90, Indochine revient en 2002 avec « J'ai demandé à la Lune ». Depuis, le groupe reste très populaire, ce qui fait la fierté de Nicolas Sirkis, interviewé l'an dernier sur Europe 1.
Alors que généralement, le rock, c'est plutôt fait pour côté rebelle, le côté « on n'est pas d'accord avec ses parents », là, on arrive à unifier toutes ces générations.
Les billets pour la tournée anniversaire sont d'ailleurs partis en quelques heures, signe que 40 ans après leur premier succès, Indochine n'est pas démodé.
Voilà, Indochine ce soir donc au Stade de France pour fêter leurs 40 ans. C'était le journal de Clément Gouiz. Merci beaucoup Clément. Mélanie Darmon, c'est quoi votre chanson préférée d'Indochine ?
J'ai demandé à la Lune, on reste dans le ciel, forcément.
C'est ça. Il y a du soleil aujourd'hui ?
Et oui, après les orages, retour au calme et au beau, les températures en baisse au nord rendent l'atmosphère respirable. Au sud, le beau temps très chaud résiste. On a une nouvelle bouffée d'air chaud qui remonte du Maghreb vers les régions du sud, de l'Aquitaine à la Provence, où les maximales vont atteindre 36 degrés au sud contre 20 à 28 au nord.
Merci Valérie Darmon, 7h38. La photo de Paris Match avant les unes de vos quotidiens, c'est le samedi matin bien sûr avec la directrice de la rédaction. Bonjour Caroline Mangez.
Bonjour Thierry.
Alors on va s'arrêter ce matin, page 68-69. On est à Boutcha en Ukraine. Le président ukrainien est en treillis avec son équipe en train de constater les horreurs. Et vous titrez Volodymyr Zelensky, capitaine Ukraine.
Cet ancien comédien est en effet, Thierry, devenu un chef de guerre, une icône. On se moquait de lui au départ. Et je me souviens d'un article du New York Times qu'il traitait quasiment de clown au lendemain de l'invasion russe. Aujourd'hui, on l'acclame partout dans le monde. Il est sur tous les écrans. Il sera à Cannes. Alors que les Américains et les Anglais lui avaient proposé, ses alliés lui avaient proposé de l'exfiltrer, c'est dire s'il pensait qu'il avait peu de chance de devenir le héros qu'il est aujourd'hui.
Parce que lui décide de rester justement à Kiev. Caroline Mangez, il mise sur un collectif, une garde rapprochée pour arriver à galvaniser la résistance.
Alors, collectif, c'est un grand nom. C'est une petite équipe très soudée de quinquagénaires qui l'entoure, chef des armées, avocat, conseiller en communication notamment, parce que c'est un peu là son expertise, des blogueurs. Ils inondent de leurs images ukrainiennes. On les voit sur les chaînes d'infos continues toute la journée. Ils sont d'excellents communicants. On ne sait pas très bien ce qui se passe dans les coulisses, mais c'était un peu ce qu'on raconte dans Match, puisque Stéphane Sion, qui signe le papier, sort une première biographie et raconte que la vie dans les bunkers, la vie parallèle de Zelensky.
Et à l'origine, il ne faisait confiance à personne, mais il a changé bien sûr depuis l'invasion russe.
Il n'avait pas tellement le choix, il faut dans ces cas-là être un petit peu entouré. Il a donc dû apprendre à faire confiance à sa base, qui porte l'élan de résistance dont il est devenu le symbole.
Itinéraire du comédien devenu une icône, c'est la une de Match cette semaine. Merci Caroline Mangez, bon samedi.
Merci Thierry.
Et puis les unes de vos quotidiens ce matin, gouvernement Borne, Macron joue la continuité, titre Le Figaro, sauf à l'école avec la nomination de Pap Ndiaye. Une bonne prise, des reprises et de mauvaises surprises, c'est le long titre en une de Libération. La bonne prise, c'est Pap Ndiaye, les mauvaises surprises, ce sont deux techniciennes, deux poids-plumes pour gérer la transition écologique, juge-le.
quotidien. Entre continuité et surprise pour Ouest-France, Le Parisien aujourd'hui en France lance un haut travail. Et puis en une du quotidien également, Mbappé, dernier match au Parc, point d'interrogation. C'est d'ailleurs le titre en une de l'équipe, hein, la décision. Mbappé qui doit annoncer dans les toutes prochaines heures s'il reste ou pas à Paris. Dernière journée de Ligue 1 avec notamment le choc OM Strasbourg. Restez avec nous. C'est samedi, c'est Paris s'il est sorti. Laurie, Stéphanie et Nicolas, ils vous donnent, vous le savez, plein d'idées de sortie pour ce week-end. Tiens, on sera à Cannes avec Laurie, hein. La Croisette qui se réveille sous le soleil. A tout de suite sur Europe 1.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Et voici par ici les sorties, votre rendez-vous du samedi avec Laurie, avec Stéphanie, avec Nicolas. Bonjour les trois grâces.
Bonjour Thierry.
Allez, on commence avec vous Laurie, depuis le Festival de Cannes, La Croisette. Comment ça se passe cette semaine alors ?
Eh bien, ça se passe très bien. C'est une très belle édition qui a été marquée évidemment cette semaine par la présentation en avant-première de Top Gun Maverick, film européen. C'était l'événement avec la venue jeudi soir sur la Croisette, très attendue, de Tom Cruise ainsi que toute l'équipe du film évidemment. Il y a la patrouille de France qui a survolé les marches du palais avant le coup d'envoi de la projection. Un très bel hommage aussi qui a été rendu à Tom Cruise. C'était vraiment, je pense que ça restera le temps fort du festival.
Laurie, ce samedi soir, quel est le programme à Cannes alors ?
Alors ce soir, un duel de haut vol, puisque De Palme en compétition, le réalisateur suédois Ruben Östlund, qui avait reçu la Palme d'Or en 2017 pour The Square, qui revient avec Sans filtre, une comédie satirique où il suit les passagers d'une croisière de luxe échouée sur une île déserte et dirigée par un capitaine de navire marxiste. Donc voilà, donc ça fait partie des films assez attendus. Mmh. Et puis Christian Mungiu qui revient aussi, il avait reçu la Palme d'Or pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours, un drame sur l'avortement et la corruption. Et il revient avec RMN, un film sur le destin d'un pays. Je ne vous en dis pas plus, je n'en sais pas plus d'ailleurs actuellement.
Laurie, si on n'est pas à Cannes comme vous, et si on veut aller au cinéma, qu'est-ce qu'on va voir ?
On n'est pas exclu. Ouais, on n'est pas exclu parce qu'il y a des beaux films à voir au cinéma. Déjà, le film d'Arnaud Desplechin qui a été donc présenté hier à Cannes et donc qui est sorti en même temps dans toutes les salles de cinéma partout en France. Ça s'appelle Frères et Sœurs avec Marion Cotillard et Melville Poupeau. Les deux acteurs jouent un frère et une sœur qui se détestent et ils se détestent depuis tellement longtemps qu'ils ne savent même plus pourquoi, mais suite à un accident, ils vont être amenés à se revoir. Vous verrez, c'est un très joli film sur les liens du sang.
Parfait. Un autre conseil peut-être, Laurie ?
Un gros coup de cœur, le film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, Coupé de Michel Hazanavicius. C'est juste génial, c'est barré. En même temps, c'est une très belle déclaration d'amour à l'industrie du cinéma, à celles et ceux qui font le cinéma. C'est l'histoire d'un réalisateur embauché pour réaliser un film de zombies à tout petit budget. Il est joué par Romain Duris.
Laurent, il devient Akira. Muriel, elle devient Natsumi. Et Anaïs, elle devient Shinasu. Et moi, je suis Ken. Par contre, rigole pas. Non, hey, je te jure, je te marre pas. C'est moi qui suis les grands mecs.
C'est mon film. Tu fermes ta gueule! Tu me fais chier depuis le début des répétitions! Alors maintenant, tu fermes ta grande gueule de con!
Coupé donc! Merci beaucoup, Laurie. Oui. Belle journée à Cannes!
Avec plaisir, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, il fait très beau, on a beaucoup de chance.
Profitez bien. Nicolas, ce matin, vous nous parlez d'un livre un peu particulier. Hein.
Oui, une fois n'est pas coutume, mais c'est qu'il s'agit d'un témoignage important et bouleversant. C'est signé Léon Plassec avec Philippe Legrand et ça s'appelle « J'avais 10 ans à Bergen-Belsen », c'est au Cherche-Midi.
Et Bergen-Belsen, ce qui est le camp de concentration de sinistre mémoire, bien sûr.
Absolument, et regardez, le vertige commence déjà avec la couverture, on y voit une carte de déporté avec la photo et le nom Plassec, c'est donc l'auteur. Léon Plassec, il avait 10 ans quand il a été déporté, il raconte son enfance, le jour où il est enregistré à la mairie du 18e arrondissement de Paris, avec sur sa carte le J majuscule de juif et son étoile jaune, bien entendu. En 41, avec son frère, il voit bien que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Alors, il tente une sorte de fugue, mais avortée très vite. Et puis ensuite, ce matin, à 6 heures, où ils sont réveillés par des coups de pied dans la porte et des polices ouvrées. Ouais. Et puis l'autobus, Drancy, et puis le train, encore un camion, et c'est Bergen-Belsen. Et alors là, on plonge dans l'horreur, évidemment.
Et on connaît beaucoup de choses sur Bergen-Belsen, déjà. Hein.
Et oui, mais pas vu par un enfant de 10 ans comme ça. C'est le quotidien d'un gamin en enfer, les nazis, la faim et la mort omniprésente, mais la mort concrète des cadavres. Alors ce sont les souvenirs d'un monsieur de 90 ans qui depuis a appris d'autres choses. Mais donc on a cette double vision, ce témoignage direct, très très concret, cette distance de l'âge. En même temps, un livre, je vous disais, important et assez passionnant.
Léon Plassec donc avec Philippe Legrand. J'avais 10 ans à Bergen-Belsen au Cherche-Midi. Merci Nicolas. Dans un instant, la musique.
Stéphanie, enfin,
il y a quoi dans votre panier ?
Ah, il y a du Police, et je sais que vous aimez bien, et il y a le nouveau Yannick Noah.
Mais c'est pas mal, à tout de suite.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
7h49, l'essentiel de l'info, Clément Gouiz.
Un gouvernement paritaire et équilibré, voilà comment a qualifié hier la première ministre Elisabeth Borne son équipe sur le plateau de JT de 20h de TF1. 27 membres au total, 13 femmes et 14 hommes. Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Clément Beaune conservent leur portefeuille. Parmi les nouvelles têtes, on retrouve Papendiaï à l'éducation nationale ou encore Rima Abdul-Malak à la culture. La première ministre en a profité également pour insister sur sa fibre sociale et mettre en avant les priorités de son gouvernement, le pouvoir d'achat, l'écologie et la réforme des retraites. François Hollande renonce à se lancer dans la bataille des législatives. L'ancien président de la République l'a annoncé hier. Il a hésité longuement à se présenter dans son ancienne circonscription en Corrèze. Pénurie de soignants aux urgences. Conséquence, 120 services sont contraints à limiter leur activité ou s'y préparer avant l'été, annonce l'association SAMU Urgence de France. Et puis Auxerre est à un pas de la Ligue 1. Le club bourguignon a écarté hier soir Sochaux en barrage de la Ligue 2. Tout s'est joué au tir au but. La GIA défiera le 18e de Ligue 1 les 26 et 29 mai prochains.
Merci Clément, à tout à l'heure. Paris, c'est les sorties, la suite dans un instant avec la musique et de la bonne impolice. Et puis le dernier titre de Yannick Noah. Ne quittez pas, on revient sur Europe 1.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Et nous revoilà par ici, des sorties, la deuxième partie avec Laurie, avec Nicolas et avec la ZIC maintenant.
Oui.
Bonjour Thierry.
Alors, chère Stéphanie Loire, ce matin...
Chère Titi.
On commence par le coffret.
On dirait une carte postale.
Il adore ce surnom.
The Police... Arrêtez avec ça. Enfin, The Police Around the World, dans une version enrichie en CD, vinyle, DVD et Blu-ray.
Oui, il y en a pour tous les goûts. Lors de leur première tournée mondiale, Police, en 1979 et 1980, ouais, ils allaient parcourir 6 continents et connaître une ascension fulgurante, celle qu'on connaît tous aujourd'hui. Ce coffret-là, il propose des images de scènes et des moments intimes. On y retrouve Sting, Andy Summers, Stewart Copeland, qui explore le Japon, Hong Kong, l'Australie, l'Inde, l'Égypte, la Grèce, la France, l'Amérique du Sud, les États-Unis. C'est un tour du monde. Les images, elles sont dingues. Le groupe est filmé sur scène et surtout, bien sûr, en off. On les découvre dans leur intimité. On assiste avec délectation à des visites de monuments locaux.
C'est bien ça, Nicolas, vous adorez ça, non ?
J'adore. Ouais. Police, j'adore.
Des dégustations de cuisine, en plus. Vous aimez manger, vous aimez Police. Ouais. Je pense que tout est au rendez-vous pour vous, Nicolas.
C'est un gars compliqué.
Et puis des rencontres avec les fans, leur gentillesse, leur sympathie, l'humour, tout ce qui fait le groupe. Donc là, c'est un live qu'on entend, un extrait, ouais, qui figure dans ce coffret-là. Un live qui a été enregistré en 1980 à Kyoto. Le film, il est présenté avec des images restaurées et un son remasterisé. Ouais. C'est comme l'original, mais en mieux, Titi. Ouais. Le vinyle et le CD contiennent des versions live inédites de titres enregistrés au Japon, à Hong Kong et en Angleterre. Là, on va entendre un extrait de Born in the 50s à Hong Kong, toujours en 80.
Sacré groupe, hein. The Police Around the World, donc c'est disponible depuis hier.
C'est, oui, c'est, voilà, c'est tout frais.
Allez, on monte au filet avec une autre nouveauté, cette fois un artiste...
Monte au filet.
Quelle belle métaphore.
Une ex-star du tennis français, Yannick Noah.
Oui, Yannick Noah.
Et un smash de Stéphanie.
Bah, moi, vous pourrez l'attendre, le mien. Lui, en revanche, on l'a vu, hein, tennisman de renom. Yannick Noah, c'est le seul à avoir jamais réussi une reconversion totale.
Vous le rappelez, Stéphanie, la date de sa victoire à Roland-Garros, c'était en...
Bah, je sais pas, je vous demande. Oh là là, l'interrogation.
83.
Mais j'étais pas né, enfin.
Bon, c'est pas grave, on n'a pas gagné, de toute façon.
C'était 83.
Oui, 83.
Bon, on se rappelle, bien évidemment, à l'aube
vous
de Roland Garros.
C'est facile aussi.
Mais c'est ça, il connaît tout, c'est une encyclopédie.
Allez, Stéphanie.
Vous allez d'ailleurs y faire une émission, une émission spéciale à Roland Garros.
Demain, on chausse le short et les baskets. Enfin,
je serai là rien que pour ça, hein, vraiment.
Hop. Ça se chausse, hein, c'est un short.
Allez-y, Stéphanie.
Vous vous rappelez de Saga Africa?
Bah, bien sûr.
Vous avez dansé sur Saga Africa.
Saga Africa.
Allez, petit souvenir, on écoute, c'était en 91. Bon, moi j'avoue,
il était avec l'équipe de France quand elle a gagné comme ça.
Et il dansait. Et on lui a reproché de faire la promo de son disque sur le court.
Le gars, il a réussi sa carrière de tennisman, il a réussi sa carrière de chanteur.
Il a réussi sa carrière de mari et d'homme.
Ça me fait penser à Nicolas Caro.
Bon, vous voulez écouter son nouveau single ou pas ?
Bien sûr, mais un peu.
Il s'appelle. Il a opéré, Yannick Noah, un retour aux sources au Cameroun. Et il vient de dévoiler un nouveau titre qui en fait le récit. Le titre s'appelle Back to Africa.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
À suivre, Isabelle Moreau et l'interview de Jean-Pierre Elkabbach.